Bien, avec votre permission, on ne va pas sacrifier au quart d'heure Poitevin. On va lancer la session. Je voulais, en tant que directeur de l'espace Mendès France, vous souhaiter la bienvenue dans cette salle, dans cet établissement. Claire Barbillon va vous dire un petit mot sur le timing. Merci à Jérôme Grévy, avec qui le partenariat historique avec le Centre d'études médiévales, qui date d'il y a maintenant 22 ans, se poursuit, se perfectionne. Voilà. Je voulais vous dire un mot de l'espace Mendès France, parce que quand vous êtes arrivé, vous avez certainement vu une ribambelle de gamins qui partaient vers différents ateliers. Donc vous dire à quel point cette maison de culture scientifique a souhaité depuis très longtemps d'abord garantir sa présence dans la cité par une mixité des publics. Cette mixité, c'est une mixité d'âge. Les plus jeunes ont aux alentours de 4 ans. Je ne parlerai pas des plus anciens qui sont dans la salle, je ne me permettrai pas, hein, cher Gérard. Et toc, je te l'avais dit. Voilà, donc mixité des publics. Deuxièmement, un vrai travail territorial, je vais vous en dire un mot. Puis le troisième point, on a un slogan qui est très simple. Il n'y a pas de culture scientifique sans présence des scientifiques. Donc aujourd'hui, vous avez dans cette salle un panel qui représente celles et ceux qui, je dis ça rapidement, ça ne plaît pas toujours, fabriquent la connaissance, celles et ceux qui viennent commencer à devenir des artisans de la connaissance, les étudiants, et puis autrement, le public qui est invité à nos sessions d'études. Nous sommes entrés depuis peu de temps, nous, Centre régional de culture scientifique, dans une région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un travail de fond qui est engagé. Et ce que je voulais dire, c'est que simplement, les récents audits ont mis en évidence que l'espace Mendès France avait trois caractéristiques. La première, c'est d'être inscrite dans sa cité, complètement, dans un lien fort avec l'université et l'ensemble des organismes de recherche. Ce bâtiment reçoit entre 55 et 60 000 personnes par an. Deuxième aspect, l'espace Mendès France a été repéré pour son aptitude à aller sur les territoires. Sur les 10 dernières années, nous sommes allés dans plus de 800 communes. La plus petite d'entre elles s'appelle Bouillé-Loré. Je ne sais même pas si vous en avez entendu parler. Et nous avons monté une opération il y a un an et demi à Bouillé-Loré. Il y avait plus de participants que d'habitants. Donc les gens étaient venus de très loin. Une belle affaire. Et cette question des territoires, elle est importante, y compris par rapport à la discussion que vous allez avoir sur cette dimension historique et patrimoniale. Il y a la ville et il y a les champs. Et c'est important de valoriser celles et ceux qui vivent et développent de l'activité en milieu rural. Dernier point, l'espace Mendès France a été repéré pour sa capacité éditoriale. La revue L'Actualité, qui s'appelait avant Actualité Poitou-Charentes, est devenue Actualité Nouvelle-Aquitaine. Et le croisement des thématiques qui est quelque chose d'important pour nous, pour décloisonner les disciplines, le croisement des thématiques est présent au fil des pages. Donc pour toutes ces raisons, la maison a été repérée. Et dans le cadre des futures années, les fonds européens, les fonds régionaux, nous continuerons à faire vivre tout ça. Alors dernier point, cette journée d'études, pour nous, elle est emblématique et exemplaire de ce qu'une maison comme la nôtre doit pouvoir faire vivre au quotidien. Ces journées d'études sont pour nous des creusets de réflexion pour des opérations futures. Et ces opérations futures, elles ont pour objet de valoriser, de populariser et de porter connaissance auprès d'une très large population. C'est notre travail de médiateur. Et ces journées d'études, nous les voulons volontairement extrêmement transversales. Dans quelques semaines, ici, nous allons inviter un certain nombre d'historiens de l'innovation pour essayer de décortiquer, au-delà de ce mot valise qu'est l'innovation, de décortiquer tout ça dans une perspective historique et montrer à toutes et à tous comment on peut s'en emparer. Donc le projet territorial de l'espace Mendès France s'appuie sur ses relations étroites avec la communauté scientifique. Il y a des étudiants dans la salle. Nous comptons tous sur vous pour un moment ou à un autre, dans votre cursus, monter des projets en direction du public, des publics. Tout est organisé dans ce sens-là, donc les volontaires sont les bienvenus. C'est un peu plus de 80 contrats de travail chaque année hein, pour le monde étudiant ici à l'espace Mondes France. Et puis vous dire que ces journées d'études sont aussi pour nous une volonté de faire vivre les sciences de l'homme et de la société aux côtés des sciences dites dures, puisque la maison a été créée par des physiciens, chimistes, mathématiciens et autres ingénieurs, et que la présence des sciences de l'homme et de la société, non seulement pour nous, elle est importante, mais elle est vitale pour faire ce croisement. Donc, toutes ces bonnes raisons pour vous accueillir encore une fois lors de ces sessions. 2018 sera une année qui continuera ce travail. Donc Claire, je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous de ces mots d'accueil et de ces précisions. Nous sommes particulièrement heureux d'être accueillis par l'espace Mondes France aujourd'hui. Et je vais rebondir sur deux mots que vous avez employés, transversalité et partenariat, qui sont là aussi les fondements de la journée que nous avons organisée. Cette journée est transversale, un peu comme l'est notre centre de recherche, le CRIAM, centre de recherche d'histoire d'art donc contemporain, moderne et contemporain de l'université de Poitiers, auquel nous appartenons. Et il me tenait particulièrement à cœur, à travers cet objet de recherche qu'est la statuaire publique, qui est un objet de recherche qui m'est particulièrement cher, de faire dialoguer les historiens et les historiens de l'art, d'aborder frontalement ce double regard, cette pluralité épistémologique qui nous réunit entre historiens et historiens de l'art autour d'un même objet. J'avais été particulièrement frappée il y a fort longtemps en lisant à l'article fondateur de Maurice Agulon, publié dans Ethnographie française en 1870, article qui constituait la statuaire publique, 1978, ah décidément ça va mal, 1978, donc j'avais été frappée par cet article qui constituait la statue en objet historique, notamment en mettant en évidence le concept de statuomanie que vous connaissez tous et que vous avez pratiqué, de voir à quel point Agulon ouvrait la porte à la possibilité que les historiens de l'art s'emparent à leur tour de l'objet. Il nommait très peu de sculpteurs, 3 noms de sculpteurs seulement, dans un grand article qui était absolument fondamental pour étudier l'importance du processus de statuification des personnages représentés, mais les sculpteurs étaient, eux, très peu présents, et Maurice Agulon en avait tout à fait conscience, puisque par la suite, il a lui-même favorisé donc la prise en main, si j'ose dire, de cette statuaire publique par les historiens de l'art. Il n'en reste pas moins que c'est encore et toujours un objet particulièrement riche pour les historiens et qui me tenait à cœur de faire dialoguer, donc conformément à notre vocation dans notre laboratoire de recherche, des collègues issus des deux disciplines. C'est pourquoi je remercie particulièrement les collègues historiens, donc Jérôme Grévy et Gilles Malandin de mon laboratoire, qui ont répondu à cette invitation. Je remercie évidemment, si j'ose dire encore plus, mes collègues et amis qui sont venus d'un peu plus loin, Ségolène Lemaine et Annette Becker, et nos jeunes collègues, Claire Garcia, Aude Nicolas et Katia Schall, qui vont participer à cette journée. Je remercie aussi ma collègue la plus proche, Nabila Oulepsir, elle issue de l'histoire de l'art et du patrimoine, qui prendra également la parole. Mais avant de laisser la journée d'études s'ouvrir, je voudrais souligner également la richesse des partenariats dans Poitiers avec d'autres institutions que l'université, partenariat fort ancien déjà, fort ancien, enfin en tout cas fondateur de ce champ d'études ici à Poitiers que nous avons avec l'inventaire, qui est représenté ici par son directeur Fabrice Bonifay qui va présider cette première matinée. C'est évidemment tout à fait formidable de pouvoir travailler avec les institutions ici à Poitiers, telles que la DRAC, le musée Sainte-Croix, mais plus encore aujourd'hui l'inventaire, grâce auquel nous conduisons donc un projet d'étude de la statuaire publique dans les 4 départements de l'ancienne région Poitou-Charente, quitte à l'ouvrir bien sûr à la région Nouvelle-Aquitaine dès que ce sera possible. Nous conduisons ce projet également dans le cadre du CPER, contrat de plan État-région, qui finance un certain nombre de travaux d'étudiants, de doctorants, de docteurs, qui contribuent donc à ce projet d'étude, lui-même étroitement connecté à un projet plus vaste qui poursuit sa vie parallèlement, un projet plus parisien, c'est vrai aussi, mais qui a pu se développer à l'échelon national grâce au LABEX, les passés dans le présent, que représente également ici aujourd'hui ma collègue Ségolène Lemaine, LABEX nantérois, et qui a permis, avec l'aide du musée d'Orsay et de l'école du Louvre, de développer une base de données à partir d'une collection privée de cartes postales entièrement consacrées à la statuaire monumentale publique. Voilà tous les partenaires qui convergent vers l'étude dont vous verrez aujourd'hui une mise en perspective historique et historiographique. Je passe immédiatement la parole au président de séance.
Merci Madame Barbillon et merci de m'avoir proposé d'être effectivement président de cette séance ce matin. Dans le cadre de notre partenariat, je me réjouis vraiment de ce temps fort qui nourrit complètement notre projet de recherche. Je voudrais introduire cette matinée en insistant sur le caractère pleinement d'actualité de notre objet d'étude. Madame Barbillon vient de le dire, la région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée avec l'Université de Poitiers dans un inventaire de la statuaire publique. Il faut souligner que ce n'est pas la première région à le faire en France, qu'il y en a d'autres. Nombre de communes se mobilisent aujourd'hui dans la restauration et la mise en valeur de leur statuaire publique. La commande publique et la statuaire ont une place légitime dans les programmes de l'enseignement de l'histoire des arts. Les travaux de Madame Barbillon, notamment, ont déjà démontré combien cet art public est un art politique par essence, politique au sens polis, la cité, combien son étude permet d'entrer dans l'histoire nationale, déclinée dans une histoire locale, combien son étude nous oblige à aborder une écriture qui est autre que l'écriture du document écrit, qui nous est souvent plus familière. C'est celle du geste artistique et plastique. Actualité aussi parce que vous en avez sans doute entendu parler. Aux États-Unis, les Américains sont très attachés à la statuaire publique, mais le débat fait rage autour du déboulonnage des statues de généraux confédérés qui s'étaient battus pour conserver une institution particulière qui était l'esclavage. On pense à Charlottesville notamment. On se disait, Madame Barbillon se disait qu'elle ferait la même introduction que moi, donc je lui ai voler un peu son introduction, j'en suis désolé. Par extension, le débat se déplace en Europe. Le 24 août dernier, le The Guardian a publié une tribune demandant, par exemple, que la statue de l'amiral Nelson soit retirée de Trafalgar Square, au motif que Nelson a défendu lui aussi l'esclavage. Et même en France. En France, l'association Mémoire et Partage demande que soient débaptisées les rues des places de Bordeaux, Nantes, Le Havre, La Rochelle, qui portent le nom de Négrier. Louis Georgetin, président du Conseil représentatif des associations noires de France, a publié le 28 août dernier une tribune dans Libération sous le titre « Vos héros sont parfois nos bourreaux », dans lequel il invite à décoloniser l'espace public et à décoloniser les esprits en guise de réparation. Je cite le terme « réparation ». En remettant en cause les monuments commémoratifs, notamment de Colbert, au motif qu'il est l'auteur du Code noir et le fondateur de la Compagnie des Indes occidentales. Et ce texte fait débat depuis chez les historiens, même si nombre d'entre eux ne peuvent que s'accorder à dire qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la mémoire de l'esclavage. Les exemples, bien sûr, sont innombrables, particulièrement dans les dernières décennies. Après la chute de l'URSS, bien sûr, des milliers de Lénine sont descendus de leur piédestal. On a là, clairement, sur ce sujet-là, une lutte, une imbrication des luttes mémorielles et politiques. Finalement, que la statue d'un personnage historique devienne un enjeu symbolique n'est ni véritablement neuf, ni surprenant. C'est même peut-être sa fonction première. Ce qui est plus discutable, c'est que ces débats publics ne se soucient pas forcément d'exactitude et de rigueur historique. Ou que cette exactitude et cette rigueur historique soient considérées comme annexes au débat public. Je pense vraiment que les historiens et les historiens de l'art que nous avons convoqués notamment aujourd'hui ont un rôle social à jouer pour redonner du sens. Expliquer n'est pas forcément excuser, contrairement à ce que certains écrivent. Littéralement, commémorer, c'est se souvenir ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons la chance, effectivement, d'avoir des historiens et des historiens de l'art pour redonner du sens. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose, Madame Barbillon ?
Je termine en ajoutant quelques exemples locaux. Je me suis livrée à travers justement la base de données à laquelle je faisais allusion tout à l'heure à une petite comparaison entre les statues à Colbert qui étaient actuellement visibles sur le sol français. Il y en a 5 que j'ai répertoriées à Montbard, à Paris, à Châteauneuf-sur-Cher, dans la cour des Gobelins également à Paris, puis à Brest, dues à des sculpteurs d'importance, Eugène Guillaume, Jacques Dumont, Jean-Paul Aubé, Milhomme. Mais, évidemment, ces 5 exemples de sculptures du XIXe siècle, assez considérables du point de vue de l'histoire de l'art, sont à mettre en rapport avec les 2 statues élevées à Toussaint-Louverture, qui se trouvent dans notre région, mais qui sont des statues qui ont été érigées récemment. Pas d'ailleurs 2 statues, un buste érigé à Bordeaux en 2005, et puis tout récemment, La Rochelle a commandé au sculpteur Ousmane Sow une sculpture de Toussaint-Louverture qui a été inaugurée en 2015. C'est vous dire si le débat est ouvert, si la commande statuaire est vivante, et c'est une façon aussi peut-être de passer maintenant la parole à notre première intervenante.
Voilà, je vais présenter notre première intervenante, Madame Annette Becker. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, senior de l'Institut universitaire de France. Elle s'est impliquée dans l'historial de la Grande Guerre à Péronne et dans le mémorial de la Shoah à Paris. Elle est spécialisée dans l'étude de la Première Guerre mondiale et de ses représentations culturelles. Dans ses travaux, elle nous a démontré que d'autres ressources que celles de l'écrit sont souvent nécessaires, plaçant son récit à hauteur de l'œil, dans le regard des années de guerre, ce qu'ont perçu les combattants, les civils, ce qu'ont traduit les artistes, les dessinateurs, les cinéastes, les peintres, les photographes, les sculpteurs. Et sa communication aujourd'hui s'intitule « Après la guerre mondiale, statuaire public ou statuaire de deuil ».
Merci beaucoup, chère Claire, pour l'invitation. J'ai été particulièrement ému que tu cites tout de suite mon ami, mon maître, Maurice Aguilon. C'est en effet sous son patronage que je suis venue à ses études. Et je trouve qu'il nous manque aujourd'hui cruellement. Mais je suis venue aussi à ses études grâce à Nanterre, grâce au travail que je fais maintenant en commun avec toi d'abord, avec Ségolène ensuite, entre historien et historien de l'art. Et je pense que c'est une réussite qui est très grande et qui n'est pas si fréquente. Et je suis très heureuse d'être ici à Poitiers pour continuer ce travail. Alors, évidemment, comme vous l'avez rappelé, ma spécialité première est la Première Guerre mondiale. Et je commencerai par, non pas une sculpture publique, mais une caricature qui est, je crois, la façon la plus publique dont on pouvait réfléchir à ce sujet. C'est une caricature de la baïonnette. Tu étais décorateur dans le civil. Ben, qu'est-ce que tu fous maintenant? Des décors pour une tragédie. La Grande Guerre, c'est bien une tragédie. C'est une tragédie qui a été tellement bien présenté par un grand poète qui est aussi un combattant qui s'appelle Apollinaire, et il l'a présenté dans une œuvre qui s'appelle Le poète assassiné. Et Le poète assassiné est une œuvre qu'il avait commencé à écrire avant la guerre, mais qu'il n'a publié qu'en 1916. Et ce qui était pour lui comme un canular est devenu une prémonition de la grande tuerie des poètes, puisque le poète assassiné est assassiné dans un pogrom de poètes. Mais au moment où Apollinaire publie enfin ce texte, en ne le changeant en rien par rapport à ce qu'il avait écrit avant la guerre, il change une toute petite chose, il change la fin. Et la fin, c'est la rencontre entre Tristouze, qui peut représenter toutes les femmes de combattants, en l'occurrence les femmes de poètes, et puis les artistes. Et les artistes, eh bien, c'est en fait Picasso. Et Picasso s'appelle, dans Le Poète assassiné, l'oiseau du Bénin. Et vous voyez, vous avez sous les yeux l'oiseau du Bénin, qui est une sculpture africaine qui était dans les collections d'Apollinaire, puis de Picasso. Et à la fin du livre, Tristouz et l'oiseau du Bénin, ont une petite aventure, coup de griffe d'Apollinaire à Picasso, qui ne l'avait pas beaucoup soutenu au moment où ils avaient ensemble pas volé les statuettes du Louvre, mais Apollinaire avait fini en prison et Picasso, comme toujours, s'en était très bien tiré. Et voilà ce qu'ils disent au moment où le poète est assassiné. Il faut que je lui fasse une statue, dit l'oiseau du Bénin, car je ne suis pas seulement peintre, mais aussi sculpteur. C'est ça, il faut lui élever une statue. Où ça? Le gouvernement ne nous accordera pas d'emplacement, les temps sont mauvais pour les poètes. On le dit, ce n'est peut-être pas vrai. Une statue en quoi? En marbre? En bronze? Non, c'est trop vieux. Alors ils reviennent et ils vont le sculpter. Je reviens. Je sculpterai cette profonde statue. Il revient avec des ouvriers qui habillèrent le puits d'un mur en ciment armé large de 8 cm, sauf le fond, si bien que le vide avait la forme du poète, que le trou était plein de son fantôme. Et en effet, c'est bien de fantômes que je parlerai aujourd'hui. Et le premier fantôme, c'est la sculpture de Gonzalez que vous avez sous les yeux, que Picasso a commandité à Gonzalez pour faire une sculpture pour Apollinaire. Et cela, dans les années 20, vous voyez qu'on est très loin de la sculpture publique pour un combattant. Le poète lui-même était mort en novembre 1918, juste avant la fin de la guerre, et il est mort de la grippe espagnole. Et c'est pour cela qu'on le représente toujours avec son bandage, parce qu'un combattant qui meurt de la grippe espagnole, ça ne fait vraiment pas très sérieux. Mais le chagrin de ses amis, en fait, ressemblait à celui de tous les combattants qui allaient abandonner leurs copains sur le sol dévasté du front, et celui de toutes les veuves, de tous les parents, de tous les frères et sœurs qui ne reverraient jamais les leurs, victoire ou pas. Philippe Soupeau, le poète, parle à ce moment-là des anciens combattants vivants comme des rescapés. Rescapés, évidemment, Apollinaire ne le sera pas, mais des rescapés qui vont établir des monuments de toutes les sortes à travers le monde entier. Et puisque je parlais la première, je me suis permis de me balader à travers le monde. Voilà un exemple parfait de monument aux morts. Il vient de Tasmanie. On est donc au fin fond, on est à l'endroit pratiquement le plus lointain de l'endroit où on s'est battu pendant la Première Guerre mondiale. Ces hommes de Tasmanie, de l'Oakwood Community, à côté de Port Arthur, se sont battus quelque part dans la Somme. Et voilà comment on les honore avec un Roll of Honor, où se trouve leur nom. Et puis, de chaque côté, ce qui représente l'australinitude, si l'on peut parler ainsi, leur patrie. Et il s'agit d'un kangourou ou d'un ému. Commémorer, comme vous l'avez bien dit, monsieur, c'est se souvenir avec. Mais qui se souvient? Où se souvient-on? De quoi se souvient-on? Les choix de mémoire sont volontaires ou involontaires. Et est-ce qu'on peut se souvenir, nous, aujourd'hui, qui n'avons pas connu, de ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on peut avoir une mémoire de ce qui n'est pas notre mémoire personnelle? Sans oublier les chocs qui sont parfois revécus par certains individus sous forme de cauchemars ou de troubles. Chez d'autres, c'est l'amnésie qui l'emporte. Et voilà un exemple de deuil déplacé ou de trauma déplacé. que j'ai pris la photo de droite. Ce sont des Australiens qui retrouvent 100 ans après leur ancêtre et qui pleurent comme s'ils l'avaient connu. Ils ne l'ont jamais vu, bien sûr. Et à gauche, c'est le deuil déplacé d'une... sans doute d'une petite fille, d'ancien combattant de la Grande Guerre, le jour de l'enterrement du dernier poilu français aux Invalides. Elle est venue, elle ne connaissait évidemment pas le dernier poilu, elle ne faisait pas partie de la famille, mais elle enterrait tous les siens en même temps. Et donc, quand on commémore, il faut penser à tous ces événements, parce que ce sont tous ces gens-là qui font les statues, qui les commanditent, ou qui viennent aux cérémonies et qui continuent à vivre avec, comme l'exemple de Colbert ou de Général Lee qui vient d'être pris, est tout à fait typique. On se fiche de Colbert, mais on ne se fiche pas de la situation des descendants d'esclaves aujourd'hui, bien sûr. Alors, comment les choses sont-elles nées après la guerre. Je dirais que ce qui est mort, ce sont des hommes et ce sont des paysages. Et j'ai pris deux exemples. Hein, un exemple de Beckmann, on est censé parler d'artiste aujourd'hui. Donc je trouve que Beckmann est un des artistes qui a le mieux rendu justement cette mort des hommes. En particulier dans ces grandes morgues, petites morgues, où on voit vraiment ces blessés de guerre de la façon la plus crue. Et puis une photographie banale du front, si je peux dire, avec cet écrasement total de la nature. Alors, ce qu'il en reste après, c'est évidemment cela, les cimetières militaires, un très organisé, celui de Douaumont, et un autre de l'époque, oui, le passage de la couleur au noir et blanc, ou le contraire. Donc j'irai en deux points, d'abord sur le front militaire, très rapidement, et ensuite sur le front domestique, où nous nous trouvons ici et maintenant, puisque tout ce qui n'est pas au front militaire est le front domestique. On ne parle plus d'avant et d'arrière, c'est démodé. On parle maintenant de double front, et on peut comprendre évidemment pourquoi. Alors le front militaire... j'ai pris un exemple sur lequel je viens de travailler et qui me paraît particulièrement intéressant, c'est celui des éparges. Et pourquoi celui des éparges est très intéressant? Parce que les monuments sont très intéressants et parce que c'est le secteur de Genevois. Et Genevois est sans doute le plus grand témoin, combattant, écrivain français de cette période. Il est intéressant de voir qu'il y a eu deux monuments. Il y a eu un premier monument en 1925, monument dû à une femme, ce qui n'est pas très fréquent, donc c'est à signaler, qui s'appelle Louise Mina Fischer. Et cette femme a représenté de façon intéressante l'héroïsme. L'héroïsme, ceux qui vont devant, et en particulier les officiers. Sa sculpture est un peu naïve, un peu frustre, mais elle s'appelle « À ceux qui n'ont pas de tombe ». Et on voit que très, très tôt, hein, on a bien compris que la grande nouveauté de la Grande Guerre, c'était qu'il y a tellement de morts et il y a tellement d'inconnus. C'est pour ça qu'on arrivera à l'invention commémorative de la Grande Guerre, qui est celle du soldat inconnu, mais plein de monuments locaux, de monuments publics, des champs de bataille, rappellent ce côté de l'inconnu. Et puis sur le monument principal, qui est extrêmement célèbre, trop malheureusement parce qu'il vient d'être abîmé, le monument de Real del Sarthe de 1935, je crois, où il y a une citation de Genevois à l'intérieur. Hein, vous qui avez pris votre vie, etc., vous l'avez sur la diapositive. Et c'est intéressant de voir que Genevois, qui représente la République, la patrie, à son sens le plus laïque, mais dans un sacré extrêmement fort, est rencontré par Real del Sarthe, qui est le sculpteur le plus catholique, le plus monarchiste qu'on puisse trouver, et aussi un ancien combattant qui a d'ailleurs perdu un bras à la guerre. On le voit ici modeler sa sculpture avec une seule main. Et le « je crois » accompagné des mots, cette mort qui s'agrippe, hein, mais « je crois en la patrie », accompagnée par désormais une Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc qui a été arrachée, Jeanne d'Arc qui est le symbole du patriotisme, qui peut être républicain, bien sûr, ou du patriotisme qui peut être catholique. Et on voit très bien comment Genevoix et Réal del Sarthe peuvent très bien s'accommoder de la même figure. On voit très bien l'idée de ces monuments Pietà, dont on trouve un certain nombre d'exemples, c'est celui de Bavay ici, même idée. C'est un monument qui est évidemment une Pietà, donc c'est un monument religieux, mais non, c'est une Pietà à la patrie. Et ce mélange religieux et non religieux catalyse, cristallise dans simplement un mot qui est le mot de sacré. Et on le voit à travers le pays. J'ai pris l'exemple de Chalon de Provence parce qu'il est particulièrement impressionnant dans la mesure où Eugène Piron a montré ces hommes qui sont carrément creusés dans la roche. Et il s'est lui-même installé devant. Ici repose Eugène Piron. Donc quand il meurt, il est dans le monument aux morts lui-même. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce genre de choses, hein, c'est de voir le prix de Rome qui, logiquement, se sculpte à l'intérieur de son propre monument aux morts. Il est mort, bien sûr, bien après. Hein. Et puis, un autre monument que je trouve absolument incroyable, en Picardie, où là, c'est des tanks qui sont... C'est un monument aux tankistes, mais en fait, on n'y voit que des tanks. Il n'y a pas de nom. Et donc, on a ce mélange de la continuité artistique, le prix de Rome est dans le monument aux morts, et de la nouveauté extraordinaire de l'armement à cette époque, même si les tanks ont encore peu d'importance d'un point de vue symbolique, ils ont un rôle très important. Et enfin, les monuments, je vais faire la jointure ici entre les monuments de front et les monuments du front domestique, ils représentent en général, je dirais, cette espèce de ce que j'appellerais la trifonctionnalité des monuments aux morts, avec, je crois, alors ici, sur le monument de Dijon, qui est particulièrement impressionnant, évidemment, c'est la ville de Dijon, mais c'est en même temps la République, c'est en même temps Marianne, clin d'œil encore à Maurice Aguilon. Et puis, c'est à la fois les hommes qui combattent, et donc croire, combattre, et enfin... Le dernier aspect, selon les monuments, en général, les femmes sont là pour dire, pour clamer leur douleur. Mais un certain nombre de monuments, faudrait peut-être que j'y arrive, disent aussi le travail. Et donc on a, comme à la côte Saint-André, je crois, le coq, je combats et je travaille. Ces monuments de l'intérieur sont avant tout des monuments de deuil. Et je pense que celui qui représente le mieux ce deuil, et je passerai très vite, c'est la sculpture des parents de Cathy Kollwitz. C'est extrêmement connu, cette tombe se trouve en Belgique, tout le déplacement de son deuil personnel. Elle a perdu son fils cadet dans les premiers jours de la guerre. Elle a mis des années et des années pour arriver à dessiner ce qu'elle voulait dessiner. Et puis finalement, elle est arrivée à cela. Et pour moi, elle dit à un moment, la douleur est infinie. Et la douleur est infinie, c'est pour moi ce qui représente le mieux ce que disent toutes ces sculptures intimes ou privées. Alors, elles le disent en parlant de toutes les professions, elles le disent en parlant de toutes les générations, ici les forestiers et les mineurs, ici les mères, les filles, les petits-enfants, etc., etc. On le voit très bien dans ces monuments du Pays Basque que je trouve particulièrement impressionnants, celui de Bayonne, celui de Biarritz, avec à la fois le passage de l'agriculteur au combattant et en même temps toutes les générations qui sont ici présentées. Donc on peut faire une étude d'âge, de genre, par ces monuments. Sur le genre, on a vite fini, puisque c'est de façon fascinante, pratiquement entièrement masculin, sauf détails que l'on verra à la fin. Je pense que quand on pense sculpture publique, il faut aller beaucoup plus loin que les monuments eux-mêmes. Et donc j'ai pris quelques exemples, de l'émail à la tapisserie, le pare-feu des gobelins qui est exposé en ce moment aux gobelins est assez impressionnant. Les tombes, bien sûr, sont aussi de la sculpture publique, et donc les gravures des tombes sont vraiment très, très intéressantes. La mer n'est pas très représentée en France, mais elle est énormément, évidemment, en Grande-Bretagne. Et puis, dernier aspect, la grande et la petite patrie. Alors, j'ai pris l'exemple du Pays Basque, hein, à ses enfants, à ses mougères, à ses enfants morts pour la grande patrie, la petite patrie reconnaissante. Hein. Donc, c'est vraiment un retournement incroyable. Hein. Les petits sont allés vers le grand et ils remercient pour le sacrifice fait pour la patrie. C'est assez incroyable. On pourrait envoyer ça aux Catalans d'aujourd'hui, ou aux Basques d'ailleurs. Et puis, Saint-Estéban à côté, hein, « Vous, Dieu des armées, accordez aux soldats basques la paix éternelle. » Je ne suis pas le basque, hein, heureusement, on me l'a traduit. Le catholicisme basque, en basque, mais dans la patrie, avec le bleu, blanc, rouge et la croix de guerre. C'est évidemment la Bretagne très, très, très catholique qui pose son monument qui n'a rien de catholique comme à Matrans, par exemple, devant l'église. Et donc le choix de l'endroit où on le met est très important. Dans le cimetière, on le catholicise, autrement pas, mais il y a des spécialistes ici, donc je leur laisse parole. Ce qui est très, très frappant, aussi j'ai encore 10 minutes ? 10 minutes, oui. Bon, ça va. Ce qui est très frappant aussi, c'est ce passage de l'individu à l'histoire en permanence. C'est-à-dire que, comme à Gadagne, c'est un personnage qui a vécu à Gadagne. C'est pas n'importe quel combattant acheté sur catalogue, ce qui arrive souvent, malheureusement, quand les communes n'ont pas d'argent. Mais là, à Gadagne, on a tenu à ce que ce soit un des morts du village. Et on le trouve très, très souvent en Bretagne, hein, où plusieurs sculpteurs ont sculpté non pas des combattants, mais des mères de combattants qui étaient vraiment celles qui avaient le plus souffert, ou des pères de combattants. Mais à côté, l'exemple de Thiers est exactement le contraire. C'est-à-dire, enfin, c'est le contraire, mais pas complètement. C'est-à-dire que vous avez Vercingétorix qui embrasse le poilu. Ça pourrait être n'importe quel poilu, mais c'est un seul Vercingétorix, bien sûr. Et alors, on revient à des polémiques d'aujourd'hui, bien sûr. Quand commence la France, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est Maurice Agulon qui avait écrit ça. Je trouve maintenant que ça devient totalement ridicule. On a l'impression de lire un article de lui qui a 40 ans, et les gens pensent qu'ils sont géniaux parce qu'ils ont découvert qu'il y a plusieurs entrées dans l'histoire de France. Bon, je passe sur cette ironie de mauvais aloi, et je reviens au monument de Thiers, qui est vraiment très intéressant parce qu'il est énorme. Et alors, comme la ville de Thiers est en train de mourir, comme vous savez, le mélange entre la coutellerie passée en Chine et cet énorme monument du temps où c'était une grande ville ouvrière, est très, très impressionnante. Et ils sont sur le côté, les ouvriers. Donc, on a réussi à tout combiner. Et juste au-dessus, d'ailleurs, il y a un monument pour les coopératives ouvrières. Et donc, il y aura une communication là-dessus tout à l'heure, mais c'est très important de voir tous les contours. Hein. La guerre se trouve, la Première Guerre mondiale, se trouve dans toute une histoire. Ce que nous dit le monument de Villars dans le Vaucluse, hein, ceux qui sont morts pour la patrie revivent de nouveau dans l'histoire. Et je trouve qu'ils aient écrit ça sur cette plaque en 1922 est absolument passionnant, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Alors, on le revit de façon plus ou moins différente. Ça, c'est un de mes monuments aux morts préférés, celui de Lodève, parce que les frères Martel ont rendu la mort obscène. La façon dont le combattant a les deux jambes ouvertes comme ça, on dirait qu'il va être violé comme une femme. Par la mort qu'il a pris de cette façon-là. Je ne sais même pas si les frères Marcel s'en sont aperçus quand ils l'ont fait. J'ai essayé de regarder dans leur papier, ce n'est pas évident. Mais c'est comme ça qu'on le voit aujourd'hui de façon évidente. Et c'est très, très impressionnant. Je passe peut-être parce que je suis un peu longue. Pour en venir à des exemples de deuil particulièrement passionnants, celui de Sailly-Salicelle, c'est une toute petite commune. Et là, les pleurs sont vraiment figés dans cette capote vide. Hein. Elle l'enserre avec une affection, un amour et une douleur absolument incroyable. Et qu'est-ce qui reste de lui ? Ce manteau vide et ce casque. Et on voit bien que quelquefois, le chagrin, la douleur, le deuil sont aux limites du pacifisme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des monuments pacifistes. Bien sûr, des monuments pacifistes, il n'y en a pas à cette époque-là. On ne peut pas se déclarer pacifiste. Mais pourtant, quand on est autant dans le chagrin, eh bien, on devient pacifiste. Et c'est ça qui est très difficile, je trouve, quand je l'explique à des gens d'aujourd'hui, en particulier aux étudiants, de faire passer. Parce que notre pacifisme militant d'aujourd'hui, c'est pas ça. On le voit à Barjols de la même façon, il parle de martyrs, hein, mais c'est les martyrs de la foi républicaine. Le chagrin de Sillery, même chose pour ce chagrin dans la cathédrale d'Amiens, ou le chagrin de Marianne auprès du volontaire italien, c'est une sculpture magnifique qui se trouve au Père Lachaise, et donc on est en plus dans un cimetière, mais on est toujours dans ces limites. Aux Dardanelles, alors ils ont été extrêmement clairs, puisque le monument français des Dardanelles s'appelle Ave Gallia Mortalis, donc on est très clair, et puis dessous, les fameux vers de Peggy, heureux les épis mûrs, les épis moissonnés. On est dans un cimetière militaire républicain. On voit bien combien les choses bougeaient de l'un à l'autre. On le voit ici à Donzenac, hein, devant l'église, le monument avec le poilu debout, dans l'église. Il est en train de refaire le sacrifice du Christ. Même chose à Préau du Perche. Les deux se confondent. Et il faut bien voir qu'on est dans les 15 ans après la séparation des églises et de l'État. Donc on voit bien comment la guerre aussi a permis de niveler des choses dont on pensait qu'elles étaient innivelables. Et toutes les traces le montrent très bien. Et je vais finir par quelques images à la fois contemporaines et pas. J'ai mis le monument aux morts vitrail du Kremlin-Bicêtre, qui est absolument extraordinaire dans la salle des mariages du Kremlin-Bicêtre, il faut le faire, avec cette immense Marianne et cette scène d'un combattant qui revient avec les copains qui viennent le voir, la famille, et puis à la fin, on est devant sa tombe, parce qu'on meurt aussi longtemps après la guerre. Et ça, c'est une chose qu'on doit bien comprendre. Au moment où on élève tous ces monuments, eh bien, on continue à souffrir évidemment des conséquences, mais on continue aussi à mourir. Et chaque fois, c'est comme une piqûre de rappel. Et ça arrive jusqu'en 1939. Et en 1939, on remet ça. Et il n'y a que 20 ans entre les deux. Je veux vraiment le raccourcir. 20 ans entre les deux. Et on ne peut pas comprendre, évidemment, la façon dont nous lisons aujourd'hui ces monuments de la Première Guerre, sans penser que nous savons qu'il n'y a que 20 ans, mais qu'il y a une autre guerre, puis qu'il y a les guerres de décolonisation, ce que je vais vous montrer tout de suite. Et donc, j'ai mis en face la Marianne, je ne sais pas si quelques-uns étaient à cette manifestation du 11 janvier 2015, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait une Marianne à un endroit du cortège absolument magnifique. Et pour moi, c'est ça. Représenté à l'attentat contre Charlie Hebdo, le premier d'une longue série. Maintenant, on n'arrive même plus à envoyer des condoléances aux amis à travers le monde parce qu'il y en a trop chaque jour. Et donc, ça me semblait exactement la même chose. Donc, un monument public peut être, comme dans la première caricature que j'ai montrée, comme on dit dans l'art contemporain, une installation. Une installation est aussi un monument public. Et puis, je finirai par les spécificités qu'il ne faut pas oublier. Spécificité du Nord, par exemple, qui était occupé pendant la Première Guerre mondiale, avec cette fois le mineur qui est aussi combattant, mais où les femmes et les enfants doivent fuir, se réfugier, comme à Lens, ou sont envoyés en déportation. On est bien dans la Première Guerre mondiale. Et en camp de concentration, on est toujours bien dans la Première Guerre mondiale. Ce qui ne leur a pas valu que des amis. Les voilà ici sur un monument pour une énorme explosion à Lille. Et comme l'explosion a été évidemment le fait d'un dépôt de munitions, on a commencé à penser qu'ils étaient au contact des Allemands et que donc ils étaient des Boches du Nord. Et donc là, la commémoration publique, dans ce cas-là, a été de montrer qu'on était de bons combattants. Donc, on voit beaucoup plus de poilus et de combattants qu'on en voit partout ailleurs, parce qu'il faut le montrer. Dernier exemple de spécificité, les colonies françaises, qu'il ne faut pas oublier, ou les colonies général, avec deux vagues, je dirais. Première vague, vague coloniale et paternaliste, où on met à peu près les mêmes monuments que partout ailleurs, parce que Dakar, c'est la France, et Saint-Louis, c'est la France. Mais on rajoute quand même par-ci par-là un combattant africain, mais de façon extrêmement, ou antillais, mais de façon extrêmement paternaliste. Et puis, deuxième vague, c'est ce que vous avez au Laurent ici, on repeint les visages des poilus, on garde exactement le même monument, mais on les repeint en noir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez que les monuments continuent, bien sûr, à vivre. Et puis, je vous disais qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux guerres. Voilà le démantèlement, l'enlèvement du monument de Reims, monument de la Force Noire, enlevé par les Allemands, par les nazis, je devrais dire, en septembre 1940. Et bien évidemment, et là, cette fois, vraiment, je conclue, on passe d'une guerre à l'autre extrêmement facilement. Voilà le monument d'Arras, qui est un monument tout à fait extraordinaire, parce que des deux côtés, il représente toutes les activités de paix, mais aussi nécessaires pour la guerre. Il faut nourrir la guerre. Hein. Et puis, de l'autre côté, les activités de guerre. Et puis, la ville d'Arras, je crois, et le combattant. On a donc la trifonctionnalité. Mais le monument a été touché par un bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, vous voyez la plaque. Le monument est lui-même une victime. Alors, je ne pouvais pas finir sans le pacifisme. Un exemple très rare en France, que maudite soit la guerre, celui d'Équeurdreville. J'ai changé par rapport à l'hyper monument de la Creuse pour une fois. Et puis, retour aux artistes et aux militants. Ce tableau particulièrement passionnant de Heinrich Hörle, de 30 monuments à la prothèse inconnue. Voilà une fin de guerre particulièrement tragique. Et puis, le retour des femmes, Valérie Bouillon, en 2010, au courage des femmes. Donc, elle a couvert d'un tablier rose le monument aux morts, installation sur un monument public. Ça a été enlevé par la force publique. Aucun respect pour l'art contemporain dans les Côtes-d'Armor. Et je finirai par deux très grands artistes à Monuments aux Morts, Paul Landowski et ses fantômes. Et ces fantômes qui nous disent, presque juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans cette colline de Chalmont, qu'on sait que la guerre reviendra et qu'on ne sera peut-être pas tout à fait prêt pour la faire cette fois. Et un autre très grand artiste, Brancusi. Brancusi qui, à la demande des femmes de sa ville quasi natale, de Târgu Jiu, a fait le monument aux morts le plus extraordinaire et le plus grand que je connaisse, puisqu'il partage toute la ville. Il y a d'une part une table avec 12 tabourets. Il est clair qu'au banquet scène de la guerre, tout est vide. On retrouve l'infini. Bien sûr, il y a aussi un arc de triomphe qui est tellement petit qu'on arrive à peine à passer dessous. Même idée, c'est le baiser de Brancusi, mais refait d'une autre façon. Et enfin, sa colonne sans fin. Et c'est la plus grande de ces colonnes sans fin. Elle n'est d'ailleurs pas en pierre, mais dans un métal qui peut aller aussi haut. Et il nous dit, bien sûr, qu'il n'y aura jamais de fin à la tragédie de la Grande Guerre. Merci.
Merci beaucoup, Madame Becker. Comme indiqué dans le programme, on vous proposera plutôt les questions après la deuxième intervention. Donc, je vais demander à Aude Nicolas de nous rejoindre.
Vous avez besoin de l'ordinateur ?
Je vais me pousser alors.
Vous voulez vous mettre en... Vous voulez parler d'ici ?
Peu importe.
C'est comme vous voulez.
Peu importe.
Sinon, on peut...
Par contre, je vais le rapprocher parce que sinon, je risque d'avoir les bras un peu courts.
Oui, c'est ce que j'ai fait.
Si je peux mettre ma clé quelque part. Merci.
Alors, Aude Nicolas, en fait, est docteur en histoire de l'art contemporain. Elle est l'auteur d'une thèse intitulée « L'art et la bataille, représenter les campagnes d'Italie ». Cette étude a eu pour but d'analyser les représentations peintes, mais aussi, à chaque fois que c'était pertinent, les dessins, les photographies, les sculptures des campagnes d'Italie de 1800 à 1859. J'ai bien aimé sa formule. Elle a mis en parallèle les héritages et les innovations artistiques d'un Napoléon à l'autre. Elle est un membre associé du CRIAM et on la connaît particulièrement à l'inventaire puisque nous avons travaillé ensemble sur l'inventaire de la statuaire publique en Poitou-Charentes. Et sa communication porte aujourd'hui sur représenter le vainqueur, honorer le défunt.
Merci Monsieur Bonifay. Je tiens aussi à remercier Madame Barbillon de m'avoir invitée à participer à cette journée d'études. Alors moi du coup je vais quitter la Première Guerre mondiale, je vais aussi parler beaucoup militaire, c'est vrai, mais je vais quitter la Première Guerre mondiale pour aller plutôt au 19e siècle avec une communication qui va s'axer sur la manière dont le 19e siècle a représenté à la fois l'image du vainqueur et l'image du défunt, parce qu'il y a eu aussi un certain nombre de campagnes militaires donc, qui ont permis ces représentations. Une pratique qui vise à commémorer le guerrier victorieux qui remonte à l'Antiquité, mais aussi à la Renaissance. Donc il y a des inspirations en fait, de ces périodes qui reviennent au XIXe siècle. Et donc il y a une importance du monument sculpté qui va se développer autour de ça, et également des rapports très particuliers entretenus avec la peinture et la photographie, où je dirais le dialogue finalement entre peinture et sculpture, et sculpture et peinture, est quasiment permanent. Alors une petite citation de Victor Hugo, disons pour mettre un petit peu dans cette ambiance. L'exemplum virtutis, en fait, donc le titre exact de ma communication, c'est « Représenter le vainqueur honorer le défunt, un art de l'exemplum virtutis ». L'exemplum virtutis, c'est cette pratique qui renaît, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, avec ce retour à l'aspiration antique, à l'art de l'Antiquité, qui vise à célébrer justement les vertus héroïques, un retour à la commémoration du grand homme et à son importance. Et ces vers de Victor Hugo peuvent tout à fait s'appliquer justement à cet esprit, vers très romantique, il est vrai, mais qui colle parfaitement avec le contexte que je désire évoquer. Alors je pars de l'Antiquité pour évoquer cette importance du monument aux vainqueurs et aux défunts. Monument aux vainqueurs avec la statue de Marc Aurèle, dont Xavier Barral-Yalte a parfaitement démontré qu'il s'agissait d'une statue non pas de l'empereur pacifique, mais de l'empereur lors d'un de ses triomphes militaires au retour d'une de ses campagnes de Germanie. Et un modèle sculpté qui va ressurgir à l'époque de la Renaissance, notamment avec Donatello, lorsqu'il réalise son Gattamelata à Padoue, au milieu du XVe siècle. Et le monument à Gattamelata, c'est à la fois un hommage au condottiere victorieux de la ville de Padoue, mais il a aussi eu un tombeau, donc un gisant, qui a permis de faire un parallèle. Le gisant se trouve dans la basilique Saint-Antoine de Padoue, donc il y a un parallèle en fait entre le monument aux vivants et le monument aux défunts. Vous voyez que là, suivant l'espace et suivant le lieu, la typologie n'est pas tout à fait la même. Et on va retrouver cette association en fait du vivant et du défunt complètement juxtaposée dans ce monument d'acier qui est le tombeau du grand maître de l'artillerie de François Ier, Gaillot de Genouillac, où on a à la fois le gisant et en même temps une commémoration d'un de ses plus hauts faits d'armes, qui est la victoire de l'artillerie à la bataille de Marignan. Donc cette association des monuments, en fait, va vraiment se retrouver, va être reprise au cours des siècles, et plus particulièrement donc au XIXe siècle. Et l'école néoclassique est, par excellence, le témoin, le manifeste de cet exemplum virtutis. Alors j'ai mis en parallèle un texte extrait d'un alphabet militaire impérial qui est paru en 1811, qui permet de comprendre un petit peu pourquoi finalement on va se mettre à commémorer de plus en plus le héros vainqueur, d'autant que la Révolution finalement abolit l'idée des privilèges et que du simple soldat en général, on va trouver de plus en plus de représentations de monuments sculptés. Alors l'exemple du général de C va être à ce titre fondamental, dans la mesure où ce soldat qui est tombé héroïquement à la bataille de Marengo a fait l'objet de plusieurs commémorations. Il y a un nombre de monuments à De Sec qui sont absolument incroyables. Et son tombeau, en fait, va un petit peu cristalliser une image presque idéale de ce héros à ses derniers instants. Donc c'est une très belle recomposition de Moite qui nous montre un guerrier qui vient juste de tomber de cheval, qui est soutenu par son aide-de-camp et qui est en train d'expirer sur le champ de bataille même. Pour la réalité historique, De C a été retrouvé en fait bien après la bataille. Et pas du tout. En plus, il a été tué sur le coup. Et donc, ce monument a une inspiration antérieure qui était un monument commémoratif offert par la Médurin au général De C qu'il avait commandé. Donc monument fait par un artiste allemand qui s'appelle Omart, et vous avez en fait notre ami Moite qui connaissait ce monument et qui a probablement justement travaillé sa figure de De Sey en parallèle, en inspiration, et ses travaux sculptés vont trouver un écho dans la peinture, et la peinture va aussi avoir un écho avec la sculpture. Le tableau de Regnault, en fait, a été réemployé également par Moite pour son bas-relief. Regnault lui est antérieur. Et le bas-relief de Moite va lui-même inspirer en fait, le tableau de Brock, La mort du général de C, donc Salon 1806, où on retrouve quasiment la même posture pour le général. Le tableau étant lui-même traité un petit peu à la manière d'un bas-relief, sur un fond de paysage où les personnages semblent ressortir un petit peu de manière assez évidente. Donc le général de C, en fait, je vous l'ai dit, a fait l'objet de beaucoup de monuments, beaucoup d'inspiration. On a cette idée de commémorer le vainqueur, de cette héroïsation très importante. Chinard, quand il fait son projet de monument Il n'a pas le temps d'ailleurs d'achever son monument. Vous voyez les étapes de réflexion entre le premier projet et le travail qui a été fait pour le monument inachevé va inspirer, vous voyez, un peu plus tardivement David d'Angers pour le monument au général Gobert en 1837 au Père-Lachaise. Mais peut-être que l'inspiration la plus évidente est celle du tableau de Perron, la mort du général Valhubert, où on retrouve en fait, notamment pour le cheval, une similitude en tout cas de deux représentations et typologies qui fait beaucoup penser à Chinard. Donc on a vraiment cette espèce de dialogue en fait qui s'instaure de manière assez évidente, où la peinture devient elle-même plus ou moins un moyen aussi de commémorer le défunt au-delà de la représentation de l'événement historique qui est bien sûr recherché. Autre grand personnage de l'Empire, bon, c'est un clin d'œil un petit peu personnel, c'est un personnage sur lequel j'ai énormément travaillé, c'est le général Lassalle. Le général Lassalle, donc, qui a été portraituré par le baron Gros en 1808, suite à l'une de ses plus grandes victoires, en fait, la prise de Stettin en 1806. Donc il est représenté, on a toute la lecture de l'épisode hein, sur le plan iconographique, on a un acte de capitulation, le général pose devant la ville, ses troupes à l'arrière-plan et la citadelle de Stettin qui est donc tout à l'arrière-plan du tableau. Et ce tableau, en fait, va être le point de départ d'inspiration des monuments sculptés en l'honneur du général commandé par Napoléon. Alors, il n'est pas le seul, hein, il y a eu plusieurs généraux tués au cours de la campagne de 1809, puisque Lassalle a été tué à la bataille de Wagram en 1809, qui ont fait l'objet de commandes très importantes. L'empereur, en fait, voulait orner tous les ponts de Paris qu'il faisait construire au fur et à mesure de monuments sculptés à la gloire de ces généraux défunts. Donc Lassalle en faisait partie, et donc ce plâtre de Tonnet, qui est un plâtre monumental, qui se trouve aujourd'hui à Versailles, devait en fait donner lieu à un marbre qui devait être ensuite mis, placé sur le pont de la Concorde. Ça n'a pas été fait. Vous connaissez peut-être l'anecdote qui veut que les statues destinées au pont de la Concorde aient été pour certaines décapitées à l'époque de Louis-Philippe pour être remplacées. On a fait des maréchaux avec des généraux parce que c'était un hommage peut-être un peu plus connu. Ce qu'on sait moins, et contrairement à ce qui a beaucoup été écrit, c'est que la statue de Lassalle, elle, est restée intacte. Il n'y a pas eu de décollation de Lassalle. Hein. J'ai pu en plus le vérifier, donc... Et les archives sont formelles, donc c'est un des rares exemples en fait, de monuments vraiment sculptés, conservés dans son jus et qui aurait dû donc, voyez, orner le pont. Alors la restauration l'a fait avec les grands guerriers de l'Ancien Régime, mais le poids était tellement important, le tablier du pont était en train de céder, donc toutes les sculptures ont été enlevées pour des raisons de sécurité. Et ce monument, ce tableau de Lassalle, vous voyez, inspiré donc, une petite statuette qui se trouve en collection privée, du général, mais vous voyez que le rapport avec le tableau, finalement, va chercher la fidélité historique, la fidélité au portrait, est tout à fait mis en parallèle. Donc cette inspiration napoléonienne qui vise à mettre en exergue justement cette importance du héros victorieux, alors mort ou vivant, hein, parfois les deux, va beaucoup transparaître dans la seconde moitié du siècle, notamment à partir de la monarchie de Juillet, avec donc l'importance du développement de la légende napoléonienne. Louis-Philippe fait revenir les cendres de Napoléon en 1840, et à cette occasion, un certain nombre de textes vont bien sûr être écrits. Alors, bon, j'ai pas choisi Victor Hugo et Musset par hasard, puisque ils expriment tous deux finalement le sentiment de vivre une époque probablement assez terne, eux qui ont été bercés dans leur enfance des lauriers de leur père vainqueur. Et donc ils l'expriment assez bien dans leur littérature. C'est peut-être plus sensible chez Musset encore dans sa Confession d'un enfant du siècle. On sent vraiment ce spleen en fait qui va être exprimé par Baudelaire bien des années plus tard, mais qui est déjà tout à fait manifeste. Et puis vous voyez que Hugo trouve plus beau les cyprès mortuaires de nos vainqueurs que finalement les lauriers du poète. Donc il y a toute une typologie autour de ça qui va permettre justement ce développement particulier. Développement particulier qui se retrouve encore une fois dans un dialogue entre peinture et sculpture, notamment ce tableau de Vernet donc, qui date de 1826, qui n'a bien sûr pas été présenté au salon, puisque sous la Restauration, faire un parangon de la bataille de Rivoli, ce n'était pas une très bonne idée. Donc qui est sorti bien plus tard et qui va inspirer Feuchère pour l'un de ses reliefs de l'Arc de Triomphe, donc le passage du pont d'Arcole, en 1833-1834. Or, à cette époque-là, donc, l'historicisme se veut aussi montrer une représentation très précise justement du guerrier, y compris dans ces épisodes C'est presque de la reconstitution historique, hein, ce que fait Vernet. Et on a notamment la mention, vous voyez, il y a un petit personnage ici, c'est un petit tambour. Ce petit tambour est identifié, il s'appelle André Estienne. Alors, il est toujours représenté sous les traits très juvéniles. En fait, il avait 19 ans à cette époque-là, et on le retrouve ici sur le bas-relief de Feuchère. Donc, on a un hommage aussi à un héros qui peut-être était moins connu, en tout cas, que Napoléon, brandissant son drapeau sur le pont. Et David d'Angers, dans son fronton du Panthéon, donc cet hommage aux grands hommes, va représenter également notre petit tambour d'Arcole qui fait un petit peu figure tutélaire, figure d'inspiration pour les jeunes générations. Donc finalement, il y a une idée aussi transgénérationnelle dans le traitement de cette figure, donc qui reste une inspiration aussi pour sa ville natale. Hein, l'André Estienne de Cadenet est très connu et qui va aussi devenir un petit peu la figure tutélaire des enfants de troupe. On le retrouve y compris dans la carte postale. Il y a vraiment des échanges d'un domaine artistique à l'autre, qui est évidemment tout à fait frappant dans ce modèle. Donc la Révolution permet aussi le traitement de héros plus entre guillemets plus anonymes. Donc là, bon, j'ai Petit hommage de Victor Hugo au sculpteur David d'Angers, notamment sur un très beau texte d'ailleurs sur la sculpture et sur le travail du sculpteur. Et en fait, ce goût pour le monument et ce travail sur les légendes napoléoniennes va bien sûr s'appliquer au monument dédié à Napoléon Ier qui fleurissent sous la monarchie de Juillet et le Second Empire. Notamment ici, alors c'est j'ai pas choisi tout à fait par hasard, puisque en fait le sculpteur est lui-même militaire, il était général, il était sculpteur de loisirs, mais vous voyez qu'il avait quand même certaine aisance, disons, dans la maîtrise de son art, et qui, dans ce monument à Napoléon Ier à la bataille de Montereau, donc c'est sur le pont hein, où a eu lieu une charge très célèbre, à laquelle avait participé le père du sculpteur, le général Pajol, donc qu'il a représenté. Et il reprend une attitude de l'empereur qui était très présente en peinture, c'est l'attitude du commandement avec le bras levé. Donc je vous ai mis plusieurs exemples de peinture pour que vous compreniez en fait cette inspiration donc du héros vainqueur. Et de manière plus signifiante, pour le portrait de Napoléon, il est certain que Pajol se soit inspiré du tableau de Delaroche qui est d'une année antérieure en fait à sa réalisation. Et pour le cheval, C'est un étalon arabe et c'est la reprise du tableau de Vernet de la bataille de Friedland réinterprété. Donc il y a quand même un échange assez intéressant finalement entre ces arts-là. Et le monument s'accompagne de deux reliefs qui ont fait l'objet également d'une étude, en tout cas de connaissance de Pajol vis-à-vis des autres artistes et des autres arts, notamment ce dessin d'Eugène Lamy qui a donné lieu à une peinture aujourd'hui disparue, mais qui est très connue en fait par les stampes que l'on a ici. Vous voyez que Pajol en fait réinterprète. C'est un moment très célèbre où Napoléon a expliqué, en pointant un canon à la bataille de Montereau, à ses artilleurs qui voulaient l'en empêcher, que le boulet qu'il tuerait n'était pas encore fondu. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment se cristalliser dans la légende napoléonienne et qui va, vous voyez, inspirer jusqu'aux objets d'art, puisque la collection de l'île d'Aix, notamment, reprend donc cette titulature. L'autre relief montre, c'est l'hommage de Pajol à son père qui est en train de charger. J'ai mis le tableau de Langlois par comparaison, là on est quand même un tout petit peu plus loin, mais il est probable, en étudiant le relief en détail, j'ai retrouvé certains personnages qui figuraient dans le tableau de Langlois, qu'il y ait eu quand même une lecture de la part du général Pajol à ce titre. Général Pajol qui termine l'hommage à son père avec le gisant qu'il réalise pour la ville de Nozeroy, pour le tombeau familial, où il montre son père en fait tout jeune dans une pose qui rappelle à la fois la mort de Barat de David le peintre, mais surtout la mort de Barat de David d'Angers en lecture inversée. Alors Pajol n'est pas en train de serrer une cocarde tricolore, il est en train de serrer tout simplement une carte, puisque donc il était général. Et ce monument, ce gisant en fait est monumental, permet de montrer aussi cette importance de l'hommage rendu aux guerriers défunts. Pour anecdote, le général Pajol n'a pas été tué au combat, il est tombé dans l'escalier, il est mort des suites de sa chute. Voilà. Et donc c'est intéressant d'avoir cette image de jeunesse, d'autant plus que, alors il faut le savoir, il faut Bon, j'ai parcouru un peu les états de service de Pajol, parce que je ne m'expliquais pas cette représentation d'un hussard de l'année 1794. Donc je me suis posé la question, et il se trouve que c'est l'une de ses plus grandes, un de ses plus hauts faits d'armes qui lui a permis notamment de revenir à Paris et de rapporter les 36 drapeaux qu'il avait pris à l'ennemi. Donc il y a un hommage à travers le monument funéraire à l'un des plus hauts faits d'armes de son père, ce qui est quand même relativement intéressant. Et sur le mode du Joseph Barat, tué en 1793, donc il y a vraiment un parallèle assez intéressant. Donc d'un empire à l'autre, on peut avoir des monuments sculptés, alors très originaux, ça c'est un petit clin d'œil à une intervention que j'avais faite sur le camp de Châlons il y a quelques années. Donc ce sont les soldats eux-mêmes au camp de Châlons sous le Second Empire qui faisaient des monuments, voilà, ils distrayaient d'une certaine manière. Et ici, vous avez en fait une inspiration complète entre le zouave qui est ici, ce sont les zouaves de la garde, et le zouave du tableau de Yvon qui représentait la prise de Malakoff. Donc il y a un petit clin d'œil à la fois au fait d'armes victorieux et aussi donc au tableau de Yvon qui était pour les zouaves en tout cas extrêmement célèbre et important. Le Second Empire ne s'arrête pas en si bon chemin, et notamment la campagne d'Italie va cristalliser un certain nombre de monuments très importants. C'est le cas de ce monument à Napoléon III et à l'armée française qui se trouve à Milan au Parco Sempione, que j'ai trouvé après ma thèse, donc voilà, c'est un moyen d'en parler. Donc monument qui montre à la fois Napoléon III, alors c'est un Napoléon III très pacifique, c'est lors de son entrée à Milan tout simplement, donc il est en train de saluer la foule. Par contre, sur la terrasse, vous avez tous les noms des morts tués lors de la bataille de Magenta, et ça fait tout le tour. Hein, donc, et donc vous avez ici l'inspiration. L'inspiration vient d'un tableau qui se trouve en collection privée, mais qui était connu à l'époque, donc de l'entrée de Napoléon III et de Victor Emmanuel à Milan. Et on a la même chose pour Victor Emmanuel en personne, évidemment. Le roi ne s'est pas oublié, comme vous le savez. Il y a des monuments de 1859 un peu partout en Italie. Celui-ci donc, se trouve devant le Duomo. Et autant le bas-relief, le même haut-relief, on peut dire, montre l'entrée des troupes françaises à Milan, autant le souverain est représenté, lui, en acte de combattant. Et cela vient en fait d'un tableau assez connu de Luigi Nolfini, qu'il avait peint pour le roi, qui le représente à la bataille de Palestro, qui est son fait d'armes en Italie. Un des plus importants, où là on a une reprise à la fois par le portrait officiel et par la scène de bataille, on retrouve en fait dans la dynamique du monument sculpté. Donc il y a toujours ce dialogue, et puis pour anecdote, le héros victorieux peut être aussi représenté d'une manière beaucoup plus, disons, peut-être simple. C'est le cas de cette petite sculpture de Victor Emmanuel II qu'il représente en caporal de zouave. Les zouaves français l'avaient fait caporal d'honneur suite à la bataille de Palestro, justement. Et Napoléon III s'était piqué au jeu, lui avait offert un uniforme de zouave qui est toujours conservé aujourd'hui donc à l'armée royale à Turin. Donc on retrouve un peu le souverain. Vous voyez, bon, si on ne savait pas que c'était Victor Emmanuel, on pourrait se poser la question de cette drôle de représentation. Et rapport également avec la photographie, le monument du maréchal de MacMahon qui se trouve devant l'ossuaire de Magenta, qui a été sculpté, donc inauguré en 1895, fait lui référence tout simplement... alors vous avez un vainqueur qui a quand même une drôle de position, je pense que vous en conviendrez, une main dans une poche. Alors ce que le cliché ne révèle pas, il a sa longue vue en fait, hein, qu'il tient dans son dos. Et bon, il a une attitude quand même peut-être à la fois très méditative et très désinvolte. Et ça reprend un cliché qui avait été pris en Algérie en 1858, Algérie dont MacMahon était gouverneur avant d'aller faire la campagne d'Italie. Et pourquoi Magenta ? Tout simplement parce que MacMahon est l'un des grands vainqueurs de Magenta et qu'il doit en fait son titre de duc de Magenta et son bâton de maréchal à la bataille. Mais une représentation, vous voyez, alors qui correspond assez bien aussi à la psychologie du personnage. MacMahon avait dit au peintre Yvon, qui était venu le représenter en Crimée, écoutez, vous me mettez sur votre tableau ou vous m'y mettez pas, ça m'est parfaitement égal, et puis n'ajoutez pas de plumes ni de panache, j'étais en képi en tunique, donc que ça ne vous pose aucun problème. Donc vous voyez, c'est aussi un petit clin d'œil à ce soldat un peu rude qui était MacMahon. Le monument sculpté commémoratif peut commémorer évidemment aussi le défunt, et parfois la photographie peut aider dans l'exécution du portrait. C'est le cas pour la statue du général Clerc, qui se trouve à Salins-les-Bains, où on a une inspiration d'une photographie très célèbre donc qui a été reprise. J'ai parlé d'André Estienne, représenté dans sa jeunesse, dans sa fougue victorieuse. Je ne pouvais pas ne pas parler de Kamiński, qui est un illustre anonyme polonais tué à la bataille de Magenta et dont le père, qui était officier, n'est pas le commanditaire du monument. C'est un ami de la famille qui a commandé à la fois le monument au tombeau. Et vous voyez, là, pour le coup, il y a plus une réflexion sur la mort. C'est assez... assez dur, et l'ami en question a commandé, en fait, pour le parc de son château, un monument qui est ici, qui peut faire écho à celui que le capitaine Noiseau avait commandé à Rude, sachant que Franceschi est un élève de Rude, donc il y a un petit parallèle, disons, intéressant à faire. En conclusion, cette pratique de représentation du monument sculpté et du monument du défunt n'est pas exclusivement franco-italienne, bien entendu. On a eu le cas, bien sûr, partout en Europe, y compris aux États-Unis. Je ne vais pas revenir sur le général Lee, mais il y a un très beau gisant en Virginie qui le montre, voilà, mais sans polémique de ma part, puisqu'il y a une très belle statue de Grant aussi à Washington, donc on peut faire le parallèle entre nordistes et sudistes pour réconcilier les ménages. Et donc ici, les monuments qui ont été dédiés au prince impérial, où on voit, souscription des officiers anglais d'une part, en l'honneur en fait de l'ancien élève de l'académie d'artillerie de Woolwich, et ici en fait inspiration de la photographie pour les différents gisants, dont un à Windsor commandé par la reine Victoria qui était sa marraine. Et on retrouve à la fois l'idée qu'on avait dans le Gattamelata de la Renaissance du héros représenté vivant et ensuite du gisant. Et pour en finir tout à fait, évidemment, je ne pouvais pas ouvrir, finalement, c'est peut-être un petit rappel de la Première Guerre mondiale, sur le maréchal Foch. Le maréchal Foch, à la fois triomphant, alors statue a fait scandale parce qu'il n'avait pas son képi, et ça ne se faisait pas, est vrai, mais qui reprend à la fois la typologie du Marc Aurèle, si vous vous souvenez, que je vous ai montré, évidemment, en début de séance, qui s'inspire également donc, du défilé de la victoire, et de son gisant par Panlovdovski, donc le tombeau. L'inspiration aujourd'hui étant également reprise dans un monument qui sera inauguré en fait l'année prochaine, hein, en 2018, un mémorial en hommage aux soldats morts pour la France en opération extérieure. Stéphane Vigny en sera le sculpteur. Donc une petite reprise en fait inspirée de Landowski. Alors je ne commenterai pas sur le plan stylistique. Mais voilà, c'est pour vous dire que la tradition continue dans ce cadre-là. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Madame Nicolas, pour ce timing parfait de surcroît. On a le temps, on se donne combien de temps pour les questions, Madame Barbillon ? Un petit quart d'heure pour des questions et les réponses. C'est toujours la première qui est difficile.
Merci beaucoup pour vos deux très très intéressantes communications. En fait, je voudrais rebondir sur la communication qu'on vient d'entendre, parce que c'était très intéressant la façon dont vous avez confronté les médias, en fait, cette perspective d'intermédialité. Et à la fin, vous avez terminé sur la photographie. Mais il me semble que pour les périodes antérieures, vous pourriez peut-être regarder aussi du côté de la lithographie. Et je pensais notamment de la lithographie de Charlet. Et justement, l'abécédaire de Charlet de 1835, pour un des exemples que vous avez donné, c'est vraiment, me semble-t-il, dans la gestuelle, quelque chose qui a énormément marqué la culture collective et qui peut-être trouve son écho dans la statuaire. Donc je pense que la peinture, bien sûr, mais peut-être aussi des modes d'expression de plus grande diffusion. C'est ma question, c'est cette histoire de culture visuelle plus large.
C'est pas que j'y ai pas pensé. Je ne l'ai volontairement pas fait parce que sinon j'explosais littéralement le temps qui m'était accordé. Voilà. Mais effectivement, oui, Charlet et Raffet sont des références essentielles, oui, bien sûr.
Je voudrais vous poser une question qui continue à m'intriguer. La Révolution française a donné la parole au peuple. Et a tué des millions de ce peuple devenu soldat de Napoléon, mais même d'avant. Or, la révolution dans la représentation n'apparaît qu'après la guerre de 70, difficilement, et dans la guerre de 14, enfin. Qu'est-ce qui a empêché, à votre avis, le fait que on change de modèle à ce moment-là? On va prendre votre exemple, Marc Aurèle, qui est parfait. Hein. Pourquoi on est resté à Marc Aurèle jusqu'à la fin du Second Empire? Qu'est-ce qui a empêché cette transformation? D'un point de vue je parle d'un point de vue artistique, d'un point de vue historique, je sais, hein, mais d'un point de vue artistique, est-ce qu'on peut le...
Oui, je veux bien, parce que là, je serais...
Je veux bien tenter un essai de réponse. Je crois que, alors, dans une logique artistique, l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire avait besoin de tirer sa légitimité du néoclassicisme. Et le néoclassicisme en sculpture est particulièrement résistant. Il y a même un second, voire un troisième néoclassicisme dans les années 60, c'est-à-dire qui tient le coup, effectivement, pendant tout le Second Empire. Je pense en particulier à la représentation des Gracques, à Cornélie Mère des Gracques de 62 au musée d'Orsay, qui est encore une œuvre du pur néoclassicisme sévère, et à l'importance de Guillaume, qui va être professeur au Collège de France, directeur de l'École des Beaux-Arts, et qui est un des représentants de ce néoclassicisme sévère. Tout se passant comme si il fallait s'agripper au modèle antique pour asseoir à la fois un style qui tourne le dos au baroque et au dernier baroque, lui-même signifiant les dernières années de la monarchie, et pour créer justement cette nouvelle grammaire de grands hommes illustres, pour lesquels le rattachement à l'Antiquité romaine était particulièrement légitimante.
Si je peux compléter, il y a l'exemple assez symptomatique de tous ces tableaux qui s'inspirent en fait d'œuvres antiques dès le début du XIXe siècle, tableaux et sculptures, puisqu'effectivement les grands hommes de l'Antiquité étaient le sens moral qui était recherché, et on cherchait justement à reprendre ces questions-là à travers les monuments aux grands hommes du temps. Je pense à la commande de d'Angivillers, notamment la grande commande aux grands hommes qui s'inspire bien sûr de certains fondamentaux antiques, en tout cas dans sa conception intellectuelle.
Autre question ?
Moi, je voulais dire à Annette Becker que j'avais particulièrement été sensible à l'invocation de Käthe Kollwitz. Et il y a une œuvre à laquelle j'ai pensé, que tu n'as pas montré, mais qui allait tellement bien dans le lien que tu as fait avec la Pietà laïque. C'est cette œuvre qui se trouve toute seule maintenant à Berlin, dans la Hauptwache, au bout de Unterlinden, et qui est en fait une sorte d'ultime déclinaison du paradigme de la Pietà.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est certainement l'artiste qui représente le mieux cette cristallisation du à la fois du patriotisme, du regret d'avoir envoyé les jeunes à la mort. C'est son fils, mais c'est tous les jeunes Allemands et tous les jeunes Européens et tous les jeunes du monde qu'elle cristallise, et d'une tradition religieuse dans le deuil. Elle, qui est socialiste, totalement anti-religieuse, elle dit qu'elle ne peut représenter que comme ça. Et c'est intéressant d'ailleurs que le chancelier Kohl, qui avait très bien compris ça, a voulu mettre sa Pietà dans le premier essai de commémorer tous les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, ça a été un cri d'opprobre international, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même quelques Juifs, et en particulier à cause des nazis, qui avaient disparu. Donc mettre une Pietà, c'était infernal. Mais en fait, Kohl était dans la tradition Käthe Kollwitz. Il avait raison de ce point de vue-là. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est évidemment impossible.
Et si je puis me permettre, on va faire 5 minutes de pause, histoire de ne pas trop se décaler sur le repas. Et aussi, il y avait des feuilles d'émargement qui ont circulé, je veux bien qu'on me les ramène. Merci beaucoup.
5, peut-être 10, parce que le café étant proposé, ça va être difficile de boire.
Bah oui, ouais. Alors très vite.
10 minutes.
Top chrono.
Pour reprendre...
Merci. Nous avons un objectif qui est la pause déjeuner à 12h45 maximum. Donc, c'est un bel objectif, ma foi. Et avant cela, les nourritures intellectuelles. Je vais présenter M. Jérôme Grévy. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, membre titulaire du CRIAM. Ses recherches portent notamment sur la culture politique républicaine, l'État et les églises, la politique et la religion, le mythe de Garibaldi et la culture nationale italienne. Et aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi et comment étudier les cérémonies liées au statut politique.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Et merci à Claire Barbillon également de cette initiative. Ça fait longtemps que nous nous promettons d'explorer la nature des liens entre histoire et histoire de l'art. Et là, l'occasion nous est donnée d'approfondir cet aspect. Alors, j'ai construit mon propos un peu différemment de ce qu'on a entendu jusqu'à présent parce que je l'ai construit de manière pédagogique. Il y a beaucoup d'étudiants de nos séminaires. Et j'ai voulu accentuer aussi sur la méthodologie à mettre en œuvre et comment les méthodologies des deux disciplines, finalement, se complètent et se renforcent pour comprendre quel est le rôle et la place de la statuaire, et en particulier la statuaire politique, puisque c'est cet aspect-là que je vais développer plus particulièrement. Alors, Quelques citations pour commencer. La première, dans Le Petit Parisien, au moment où il y avait toute une série d'articles sur la future inauguration de la statue de Gambetta, qui devait avoir lieu à Paris, et une citation qui est un peu minimaliste sur ce rôle et cette place de la statuaire politique. Ériger des statues, c'est vulgariser son histoire en l'éternisant. Alors, à la fois un projet très ambitieux, c'est une histoire eisaei, pour toujours, mis dans la pierre, le marbre ou le bronze, mais en même temps, c'est minimaliste vis-à-vis de ce travail qui est commandé aux artistes, aux créateurs. C'est simplement être capable de transcrire ce qui a déjà été dit ou écrit par des historiens ou par une histoire officielle. Avant la deuxième citation, je voudrais, puisqu'il y avait cette question qui nous occupait aujourd'hui de savoir le rapport entre l'aspect, la dimension d'histoire et d'histoire de l'art, je voudrais revenir un petit peu sur les causes de cette interrogation. Il y a deux éléments qui sont concomitants. D'abord, les causes d'un différent ou d'une distance entre deux disciplines, l'histoire et l'histoire de l'art. Et puis, d'autre part, ce désamour pendant plusieurs décennies vis-à-vis de la statuaire du XIXe siècle et en particulier de la statuaire politique qui a été la cible d'un très grand nombre de critiques, aussi bien de la part de l'histoire de l'art, de la part des artistes ou de la part des historiens. Alors j'ai essayé de le mettre sous forme de tableau comparatif, les approches et les causes justement de cette séparation qui parfois a été jusqu'à un fossé entre les deux dimensions. Pour l'histoire politique, qui était l'histoire noble pendant un temps de l'historiographie, la statuaire politique ou bien la représentation de cette statuaire, c'était seulement une illustration. C'est-à-dire que dans un certain nombre de manuels, au mieux, elles étaient présentes, au pire, elles étaient seulement mentionnées parce qu'elles ne faisaient qu'abonder dans un discours ou un commentaire que l'on voyait de la part de cette histoire politique. Et du coup, l'inauguration, puisque je vais m'attacher à la cérémonie, hein, c'est le thème du séminaire que j'anime ce semestre, la cérémonie était une anecdote ou une simple mise en scène de l'équipe au pouvoir. Donc, au mieux, la date était citée, au pire, on ne se préoccupait même pas de ce moment de l'inauguration. qui est encore aujourd'hui tellement important pour les politiques et pour la classe politique. La cérémonie, c'est un temps fort, comme ceux qui ont bien connu cette question politique acquiescent à l'instant. Et du coup, la postérité, c'est-à-dire le devenir de ces statues, c'est, j'ai marqué, un long chemin vers l'oubli, parce que émergent d'autres hommes qui font oublier les précédents, et en particulier dans notre histoire politique en France, la résistance a été vécue comme un moment zéro de la nouvelle histoire politique et a en partie éclipsé la mémoire antérieure. C'est le moment où soit on se contentait de mentionner les destructions par l'occupant abominable allemand qui avait voulu utiliser le bronze ou les autres métaux et donc a voulu détruire ce qui était emblématique de la France, soit on a remisé dans des coins des statues qui devenaient un petit peu gênantes, simplement à cause des contraintes de la circulation, souvent plus que pour des questions idéologiques. Pour l'histoire de l'art aussi, et Claire me contredira peut-être sur certains points, j'ai le sentiment que cette statuaire politique était l'œuvre d'un dénigrement. D'abord parce que c'était une œuvre de commande, c'est-à-dire qu'à l'avance, on avait fixé un cahier des charges, plus ou moins strict, mais un cahier des charges dans lequel on laissait une toute petite place à la création proprement dite. Il y avait les emblèmes, il y avait presque la posture, il y avait le portrait de l'homme représenté qui, du coup, avait laissé justement vraiment une place minimaliste au sculpteur proprement dite. Et l'histoire de l'art, du coup, s'est un peu réfugiée dans ce souci documentaire qui privilégiait la date, l'emplacement, le matériau pour entrer dans une typologie de cet éclectisme du XIXe siècle ou bien dans une typologie plus vaste. On parlait tout à l'heure du néoclassicisme, puisqu'il y a plusieurs néoclassicismes. Par ailleurs, Rodin a marqué très fortement la statuaire en général, et du coup, celle du XIXe siècle a été considérée comme extrêmement pauvre, car saturée de signes et d'emblèmes explicites qui n'avaient pas donné un réel pouvoir, une réelle marge de manœuvre aux sculpteurs, je le disais. Si bien que ce XIXe siècle nous est apparu comme vraiment noyé sous un flot de statues. Alors je me suis amusé, entre guillemets, rien que pour l'année 1888 et pour un seul journal, Le Petit Parisien, de repérer ces statues. Et le terme de statuomanie a été cité tout à l'heure, attribué à Agulon, mais qui renvoie justement à cette abondance de statues publiques, statues dans l'espace public, dans les dernières décennies du XIXe siècle. Et ici, de Dalayrac à Coligny, en passant par Mirabeau, la Statue de la Liberté, Baudin, Guépin, Danton, il y a une abondance. Et là, vraiment, je ne suis pas sûr d'avoir l'exhaustivité, rien que pour cette année citée par Le Petit Parisien. J'ai fait ça un petit peu trop rapidement, peut-être. Mais toujours est-il que le même Petit Parisien a bien le sentiment qu'il y a cette abondance de statuaire. Nous entrons dans la semaine des statues. Et rien qu'à Paris, statue de Gambetta, statue d'Étienne Dolet, statue du sergent Babillot, qui est moins connu, lui, statue d'Étienne Marcel, voilà les quatre monuments que Paris va inaugurer à l'occasion de cette fête du 14 juillet. Donc on a cette abondance, cette statuomanie qui peut-être a découragé aussi certains chercheurs et leur a fait penser que finalement ça n'apportait pas grand-chose, ça n'apportait rien de plus sur ce que l'on connaissait de ces hommes politiques. Mais il y a eu, et tout à l'heure, Annette Becker a cité donc Maurice Aguilon, il y a eu un renouveau historiographique, dont je donne ici quelques jalons, un renouveau historiographique qui s'est traduit par une rencontre entre historiens et historiens d'art. Bien entendu, le monument Maurice Aguilon s'impose puisqu'il a marqué toute une génération. J'ai tout de même cité que c'était dans la bibliothèque d'ethnologie historique. Lui-même dit dans sa préface qu'au début, c'était apparu comme gentillet, mais ça relevait de l'ethnologie, c'est-à-dire d'un aimable divertissement, et ce n'était pas de la grande histoire. Et il a été lui-même étonné par l'abondance de l'intérêt et par l'abondance de la mobilisation de la collectivité des historiens et des historiens d'art qui lui envoyaient qui une carte postale, qui une photographie, qui une citation. Et finalement, donc, il y a eu ces trois volumes, plus d'autres, je pense à celui co-animé avec Pierre Bonte. Donc Maurice Aguilon, bien entendu. J'ai cité également Mona Ozouf et Olivier Hill pour la dimension du cérémonial, puisque eux ne s'intéressent pas a priori à la statuaire, mais quand ils étudient la fête révolutionnaire ou la fête républicaine, il y a une omniprésence de l'inauguration, de la commémoration, c'est-à-dire que la statue est bien présente, qu'elle est un des acteurs de cette vie politique et qu'il importe de la décrypter, pas seulement sous l'angle de l'œuvre de l'artiste, mais aussi de l'usage politique qui en a été fait à divers moments. Et puis, bien entendu, puisqu'elle est avec nous, Annette Becker avait très tôt travaillé sur les monuments aux morts et il y a eu de nombreux travaux sur ceci. Pierrick Hervé, dans la Vienne, avait travaillé sur les monuments aux morts de la Vienne, avait fait un travail de répertoire presque systématique. Alors, pour justement dire comment on peut interroger comme un document à part entière et pas seulement comme une illustration ou bien comme un élément à cataloguer dans un inventaire, j'ai essayé de repérer tout ce que nous apprend le questionnaire que l'on porte sur la statue et sur la cérémonie, ou plutôt sur les cérémonies politiques. Il y a bien entendu la commande, mais vous percevez que déjà il y a les initiateurs. Pour Gambetta, je le redirai tout à l'heure, ce sont des amis de Gambetta qui ont lancé la commande, la souscription et la diffusion de cette souscription dans tout le pays. Il y a les vecteurs de la diffusion. Certains journaux lancent des appels à des souscripteurs en grand nombre. Et puis, on peut retrouver les souscripteurs. Pour Gambetta, moi, j'ai étudié les comptes rendus des conseils généraux. Il y a des débats qui ne vont pas de soi, contrairement à ce que l'histoire plus tardive a semblé dire. Fallait-il participer au financement de la statue à Cahors, à Paris, à Bordeaux ou tel autre. Il y a les modalités de la réalisation, le cahier des charges qui est fixé au moment de la commande, le financement, le lieu qui est choisi. Nous verrons, je donnerai tout à l'heure plus de détails sur les statues de Gambetta, que les lieux sont tout sauf neutres. Et puis l'œuvre de l'artiste. Alors j'ai séparé en deux blocs parce que cette première partie, c'est plus ce que les historiens d'art ont l'habitude d'explorer a priori. Comment la statue a été faite et commandée, comment elle a été réalisée et quel est le matériau que le sculpteur a mis en œuvre. Et puis les historiens, à travers l'aspect cérémoniel, ont à un moment privilégié la réception ou la postérité, c'est-à-dire se sont efforcés de voir comment la statue a continué de vivre en dehors de la simple dimension esthétique. Alors, c'est bien entendu caricatural, puisque maintenant, il y a une convergence dans les deux aspects, mais peut-être qu'il y a une propension à se porter sur un aspect ou sur un autre plus volontiers. Donc la réception, le contexte de l'inauguration, on peut retrouver les discours, le décor, les musiques, la réaction de la foule, ou bien ce qu'on appelle la postérité, comment une statue a été le support de commémoration à différents moments ou de refus de commémoration. Quels sont les événements qui ont pu affecter la statue, destruction, transformation, déplacement, restauration. Alors, je vais développer un peu plus pour les statues de Gambetta. Alors, il y a 6 statues principales, il y en a d'autres, dont les lieux, il y a une géographie, on le verra cet après-midi, une géographie de l'érection des statues. Cahors, c'était sa ville natale. J'ai mis dans l'ordre chronologique Paris, place du Carrousel, parce que c'était la ville capitale. Saïgon, parce que Eugène Étienne, qui a été ministre des colonies et qui a animé le parti colonial, était un ami de Gambetta. Et il s'est contenté de reprendre une copie de celle de Cahors. Pour la petite histoire, il y a eu 2 copies qui sont arrivées parce que la commande était mal passée. Donc, il y a eu 2 statues à Saïgon. Sèvres, parce que c'était une initiative privée de l'association Alsace-Lorraine qui voulait honorer celui qui, jusqu'au bout, avait agi pour que l'Alsace et la Lorraine restent françaises. Bordeaux, c'était en quelque sorte une revanche. La statue est en face du théâtre pour dire que, alors que l'Assemblée nationale avait dénigré Gambetta, Bordeaux l'honorait en 1905. On est dans un temps de renouveau d'un nationalisme revanchard. Ou bien Nice, c'est la ville où il y avait une statue de Garibaldi qui évoquait un petit peu l'hostilité à la France. Mais Gambetta invoquait une idée de revanche, c'est-à-dire qu'ils avaient en commun d'être républicains tous les deux. Alors, je vais passer plus rapidement. Donc là, j'ai rappelé l'abondance des documents qui peuvent être utilisés. Et dans CRIAM, il y a aussi le M de musicologie. On peut étudier les discours, la voix, l'intonation de la voix. Pour ceux du XXe siècle, on a des enregistrements, les musiques ou les chants qui sont mis en œuvre. Et abondance dans l'iconographie ou dans les textes. Alors, dans les exemples, celle de Cahors, alors, c'est déjà significatif de la difficulté de représenter un civil comme homme de guerre. La gloire du militaire, c'est plus facile. Il a le képi ou non, il a l'uniforme. Là, il tient la main sur le canon. Mais vous ferez attention, parce qu'il y aura d'autres exemples. Il y a la gestuelle, il montre... c'est le dynamisme de l'armée. Et puis, il y a les personnages secondaires, entre guillemets, puisque le fusillé marin sera récupéré et a été retrouvé à Lorient et réutilisé à Lorient. Donc, le détail de ce personnage auxiliaire de Gambetta. Là, c'est la copie à Saïgon. Le monument de Paris, et vous remarquez encore la gestuelle, le bras tendu. Alors, pour des raisons là, d'aménagement de l'espace, il a été déplacé. On a, par contre, en entier le discours qui a été réédité. Ça n'est pas qui a été édité tout de suite. Le fait qu'il y ait des brochures, c'est un signe. Parce que pour certains autres discours, j'ai dû retrouver dans la presse de l'époque ou dans des archives personnelles. Là, on a celui de Spuller. Et il est donc... Une partie du monument est conservée, place Raspail, je crois. Je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà, on a le geste qui est donné. Le monument de Sèvres, près de la maison mortuaire, intéressant, dans ce projet qui est repéré par le musée d'Orsay, c'était appelé monument à Danton et Gambetta, parce que les gambettistes voulaient honorer aussi la mémoire des Girondins. Je ne veux pas récupérer la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas de Danton et de ce moment de la Convention. Le monument a été très différent. mais j'attirerai votre attention sur le fait qu'au bas du monument, il y a une urne funéraire. Lorsque Paul Bert est décédé, sa veuve a récupéré sur la cheminée une urne dans laquelle il y avait le cœur de Gambetta, qui avait été subrepticement subtilisé la nuit de son autopsie par Paul Bert et qui a été déposé ici avant ensuite d'être translaté au Panthéon. Pour les cérémonies, on a des photographies. C'est en 1913. Intéressant, c'est un des monuments pour lequel il y a eu chaque année une cérémonie le matin du 1er janvier ou le dimanche qui suivait le 1er janvier. Et également, chaque fois qu'un gouvernement sous la Troisième République était investi, il faisait un pèlerinage laïque, un pèlerinage républicain auprès de cette statue de Sèvres, près de la maison mortuaire, où Gambetta avait très peu habité finalement. Là, c'est la translation de cette urne funéraire en 1920. C'est un lien avec le monument inconnu, parce que le jour, le monument au soldat inconnu, le jour où les restes du soldat inconnu ont été transférés depuis le lieu où ils avaient été identifiés jusqu'à l'Arc de Triomphe, et ils ont croisé le cœur de Gambetta qui, lui, allait au Panthéon. Et donc, il y a le Panthéon du cœur de Gambetta. Le reste est un peu dispersé. Si vous m'interrogez, je vous dirai où sont les autres restes, mais c'est une macabre histoire. Et donc, la cérémonie ici. On a aussi des photographies très abondantes. Là, c'est l'inauguration du monument à Gambetta. C'est presque la fin, donc je vais aller très vite. Il y a tout un recueil qui est ici. Alors, sur ces photographies, on voit plus le président que la statue. Le président qui était là pour honorer Gambetta. La fonction, c'est bien de réconcilier. On montre la foule qui est nombreuse. Cette fois, il a les bras croisés. Intéressant. C'est plus une image belliciste, mais c'est une image pacificatrice de Gambetta. Et le monument à Nice, qui a été mis un peu plus tardivement. Alors, la postérité de la statueur politique. Je disais tout à l'heure qu'elle a été en partie dénigrée. Effectivement, trop ressemblante, saturée de symboles, porteuse d'une signification exogène. Il y a eu une sorte de dépolitisation de la sculpture, c'est-à-dire qu'on a continué à accompagner certains sculpteurs, mais on n'a pas imposé un cahier des charges aussi fort. Et du coup, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu destruction, déplacement, dégradation, voire oubli des statues, après un retour au XXIe siècle où on patrimonialise, on restaure ou peut-être même on reconstruit certains monuments. C'est le grand thème, mon voisin le rappelait tout à l'heure, qui est fixé à l'inventaire. Comment on reconstruit ? Donc en conclusion, on peut dire que la statue politique est un monument à part entière et la cérémonie mérite d'être étudiée. C'est à la fois un miroir mais aussi un acteur des représentations politiques. Elle nous permet de lire les représentations de la culture politique qui est au pouvoir, ce que les étudiants appellent politiquement correct, comment il s'exprime, à quel moment et avec quelles images. Il est le signe d'une volonté de pacifier par une instrumentalisation du passé et le fait que Gambetta ne soit pas représenté en républicain, laïciste, anticlérical, mais en patriote, c'est moi aussi un signe d'une volonté de ne pas polémiquer. Et il ne faut pas oublier, même si je n'ai volontairement pas développé cet aspect, qu'il y a aussi une contestation de la mémoire et de la statuaire officielle. En 1888, la statue de Jeanne d'Arc ou la statue de Strasbourg ont été aussi l'objet d'utilisation pour contester la mémoire officielle du gouvernement. Je vous remercie.
Là aussi. Allô, allô.
Merci. Là aussi, timing parfait, M. Grévy. Nous ne perdons pas de temps. Je vais appeler tout de suite Katia Schall, qui est doctorante en histoire de l'art à l'Université de Poitiers à l'École du Louvre. Elle prépare actuellement une thèse sur la tentation de la médaille, au travers de laquelle elle étudie la production des sculpteurs qui ont contribué au renouveau de la médaille. Ces thèmes de recherche visent à comprendre ce qui a poussé les sculpteurs vers le champ de la médaille, un champ qui est relativement différent par la différence d'échelle, de relief, de technique et de mise en œuvre. Sa communication s'intitule « Quand la médaille consacre la statuaire, création et distribution métallique à l'occasion de l'inauguration de monuments publics ».
Je vous remercie pour cette présentation et je souhaiterais également remercier Claire Barbillon pour m'avoir donné l'opportunité de participer à cette journée d'études, alors même, vous l'avez rappelé, que je ne travaille pas sur la statuaire publique, puisque mes recherches portent davantage sur la médaillomanie de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais par cette communication, je vais tout de même essayer d'y contribuer, mais en vous amenant à évidemment changer d'échelle, puisque nous allons passer du monumental à la petite dimension de la médaille. On trouve nombre de médailles et aussi de monnaies évoquant dans leur champ des statues et des monuments publics, et ce depuis l'Antiquité. Je ne vous projette, pour exemple, que cette monnaie romaine frappée sous le règne de Trajan, comme en témoigne la présence du buste de l'empereur au droit de ce denier d'argent, dont la fonction est avant tout économique, mais qui porte en plus une charge commémorative en célébrant aussi l'élévation de la colonne trajane représentée au revers. Je traverse rapidement les siècles pour prendre un second exemple parmi l'histoire métallique du règne de Louis XIV, avec cette mention de la statuaire équestre du roi érigée place Vendôme, prise dans le recueil établi par l'Académie royale des inscriptions et médailles, publié en 1702, où chaque reproduction de médaille est accompagnée d'une explication historique. Cette communication ne cherche en aucun cas à rassembler un corpus métallique mettant en abîme la statuaire au sein de la médaille. Je n'utiliserai que quelques exemples visant à explorer comment les médailles entrent en jeu dans le rituel commémoratif qui se déroule autour des monuments publics élevés dans la dernière partie du XIXe siècle. Et pour cela, je me pencherai sur le processus de création de certaines médailles produites en prévision de l'inauguration de statues pour sonder le degré d'investissement du commanditaire public dans la réalisation de l'objet et pour comprendre la nature des rapports qui se nouent entre sculpteurs et graveurs en médailles. J'évoquerai encore la réception et l'usage de ces médailles, largement distribuées pendant ou après les cérémonies, et qui cristallisent en elles différentes portées entre support de discours, valeurs mémorielles, notions sensorielles et même charges affectives. Par les deux exemples que je viens de vous projeter, nous pouvons donc constater que la tradition de garnir les médailles de monuments remonte donc loin dans le temps et s'avère se perpétuer sous les différents régimes. Or, à cette tradition viendrait s'ajouter une seconde coutume qui voudrait que le sculpteur investi de la commande statuaire soit aussi à l'initiative du choix du graveur de la médaille allant commémorer son œuvre. Dans une lettre en date du 20 avril 1830, le sculpteur Jean-Pierre Cortot s'adresse au ministre de l'Intérieur en prévision de l'inauguration de la statue équestre de Louis XVI, qui lui a été commandée par l'administration royale pour la place de la Concorde, un projet que la monarchie de Juillet va mettre à mal quelques mois plus tard. Il indique, je cite, « Les modèles du monument de la place Louis XVI sont maintenant assez avancés pour qu'on puisse bientôt songer à faire faire la médaille qui devra perpétuer le souvenir de l'inauguration qui en sera faite. Aussi, m'autorisant de l'usage qui permet au sculpteur de présenter un graveur avec lequel il doit s'entendre pour l'exécution de la médaille, je me permets de recommander au choix de votre excellence, M. Édouard Gâteau, dont le talent est assez connu pour garantir la perfection du travail qui lui sera confié. » Nous sommes donc en présence d'une cooptation artistique où le lien d'amitié, Corto et Gâteau ayant été au même moment pensionnaires à Rome, va être employé comme gage de réussite. Et à cette sollicitation, l'administration royale répond positivement, car elle y voit aussi une continuité de la tradition, rappelant elle-même dans une minute datée du 14 mai 1830, je cite encore, qu'il est d'usage, lorsqu'un monument est élevé aux frais de l'État, de faire frapper une médaille d'inauguration. Par suite de cet usage, les précédents ont commandé les médailles des statues d'Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV à Paris et de Louis XVI à Lyon et à Rennes. Pour entrer dans le détail de ces médailles frappées dans le dernier tiers du XIXe siècle, pour marquer l'inauguration de certains grands monuments républicains, je voudrais maintenant décliner les différentes formes qu'elles ont pu arborer.
Le type le plus répandu est la médaille simplement inscrite d'une légende rappelant la date des festivités, le mode de financement du monument et la qualité du personnage célébré par la sculpture. Ici, pour l'exemple précis, Nicolas Leblanc, scientifique passé à la postérité pour avoir mis au point un procédé d'extraction de la soude à partir de l'eau de mer. Le résultat produit par Daniel Dupuis, un médailleur à l'époque très renommé pour la qualité de ses compositions allégoriques, reste dans ce cas assez sobre et ne tient qu'à la présence du profil du chimiste sur le droit de la médaille. Sauf par l'inscription, la médaille n'évoque pas précisément la statue d'Ernest Janniol, élevée dans la cour du Conservatoire des Arts et Métiers en 1887, mais fait davantage référence à l'homme commémoré à l'occasion de l'inauguration de son monument. Et dans ce cas de figure, la médaille sert donc à redoubler l'hommage. En outre, il existe des médailles encore plus rudimentaires et seulement ornées d'inscriptions descriptives et dédicatoires sur les deux faces. Je ne vous en ai pas projeté. Mais dans ce cas de figure, soyons honnêtes, les objets possèdent peu d'intérêt artistique. Pour d'ores et déjà répondre à la question que pose cette journée d'études en l'appliquant à la médaille, ces objets appartiendraient davantage à la catégorie du document d'histoire, important pour sa valeur de témoignage, en s'inscrivant comme une trace du passé, comme une relique matérielle de l'événement éphémère qu'est la cérémonie d'inauguration. De fait, cette qualité attribuée à la médaille, qui par sa nature métallique se voue à l'éternité, relègue encore trop facilement les objets médaillistiques au seul champ historique. Mon ambition, et celle aussi un peu de ma thèse, étant de sortir la médaille de son rôle trop illustratif pour la considérer dans une perspective davantage analytique, esthétique et contextuelle et assumer pleinement sa valeur artistique. Pour ce faire, je vais prendre un exemple un peu plus ambitieux du point de vue de la composition et faire référence aussi à la communication précédente. En vous montrant ici cette médaille d'Émile Vernier conçue en 1888 pour l'inauguration du monument élevé à la gloire de Léon Gambetta dans la cour de Napoléon du Louvre, tel qu'il est présenté donc dans le revers du champ de la médaille. À la suite, je rentre un peu dans les détails de la création de ce monument et de cette médaille. J'espère ne pas être trop redondante avec la communication précédente. Mais à la suite du décès donc de Léon Gambetta, survenu le 31 décembre 1882, un comité se forme pour lancer une souscription publique qui rassemble rapidement la somme de 350 000 francs et ouvrir le 8 janvier 1884 un concours pour la création d'un monument rappelant, je cite le programme, la double entreprise à laquelle Don Gambetta a consacré sa vie, la défense nationale et la fondation de la République. L'emplacement, les dimensions et le sujet restent quant à eux à la liberté des artistes. L'architecte Louis-Charles Boileau commence seul par réfléchir à une proposition avant de s'adjoindre les talents du sculpteur Jean-Paul Aubé pour déposer ensemble un projet d'un monument à la fois architectural et sculptural. En juin 1884, il est sélectionné parmi 6 projets retenus sur 82 présentés. Et en novembre 1884, il l'emporte au second tour éliminatoire devant les maquettes de Falguière et de Dalou. Durant 4 années, Aubé travaille à ses groupes et à ses sculptures décoratives, entourant et surmontant ce monument, ce pylône en pierre, et en les élaborant évidemment en plâtre avant de les fendre en bronze dans l'atelier de Barbedienne. Sur la face principale, pour vous décrire un tout petit peu le monument, on y voit se détacher donc le groupe de Gambetta, accompagné d'un soldat blessé, d'un adolescent symbolisant la défense nationale, d'un ouvrier et du génie ailé de la patrie tenant le drapeau. À droite figure l'allégorie de la vérité, à gauche une personnification de la force, et en haut un lion supportant la démocratie tenant les tables de la loi. Le 13 juillet 1888, la cérémonie d'inauguration a donc lieu en présence du président de la République, des présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi que des ministres. Une présence officielle qui confirme la caution de l'État, malgré que le monument ait été élevé par souscription publique. La presse mentionne qu'une foule immense assiste aux solennités, ce que les rares photographies de l'événement nous montrent également. Une salve est tirée dans le jardin des Tuileries, suivie de 4 discours, dont celui d'Eugène Spuller, le président du comité, qui évoque les différentes ambitions de l'édifice servant, et je cite une partie de son discours, à la fois de monument de deuil, d'enseignement et d'espérance, et en projetant qu'il devienne l'un des autels de la religion de la patrie. Le monument vaut à ses auteurs la Légion d'honneur, et pour clore la cérémonie, un défilé de troupes est organisé, ainsi que une remise de la médaille de Vernier aux personnalités publiques composant l'assistance et aux principaux membres du comité. Malheureusement, en l'absence de budget assez conséquent, la médaille n'a pas pu être attribuée à tous les souscripteurs, alors même que cette belle ambition a été à l'initiative de la commande. La contribution de l'État à cette fête se fait donc par la prise en charge de la commande de la médaille sur le budget de l'administration des Beaux-Arts. Avec l'appui d'un sénateur, le médailleur Émile Vernier sollicite la commande à la fin du mois d'octobre 1887, soit seulement 9 mois avant la date des célébrations, ce qui ne laisse qu'un délai raisonnable pour la bonne conception d'une œuvre médaillistique. Vernier joint immédiatement un cliché du droit de la médaille avec la figure de Gambetta et un croquis de la disposition du revers dont le monument occupe la partie principale. Ces deux maquettes manquent malheureusement au dossier conservé aux Archives nationales pour que l'on puisse comparer l'évolution du travail, mais comme le laisse entendre le descriptif, la composition entre un droit support de l'effigie et un revers référent au monument semble déjà convenue à cette étape de la commande. Émile Vernier étant connu de l'administration pour sa fiabilité, c'est sans consulter d'autres propositions que l'arrêté de commande est signé 20 jours plus tard et l'exécution des instruments de frappe est entendue pour la somme de 3000 francs. Alors que les rapports de Henri Arvard, l'inspecteur des Beaux-Arts, jugent en décembre 1887 le projet, je cite un extrait de ce rapport, des plus intéressants avec son revers d'un effet pittoresque et offrant cet avantage qui fait défaut à beaucoup de médailles contemporaines d'être d'une intelligence facile et d'une clarté absolue, la préoccupation principale du commanditaire demeure le rôle joué par le texte dans la composition. Alors qu'au même moment, beaucoup d'initiatives sont prises par les artistes pour tenter de faire sortir la médaille de ses conventions, elle reste encore largement empreinte de traditions, dont l'inscription demeure une modalité inévitable. Il faut attendre les années 1900 pour que les commanditaires prennent un peu plus confiance dans la seule image pour véhiculer leur message et pour que des médailles anépigraphes se répandent. Ainsi, pour l'heure, Eugène Spuller intervient directement dans le processus de création au sujet de la légende en fournissant une note qui est ensuite relayée au médailleur. Deux inscriptions sont proposées, l'une en violette, assez longue, que je ne vous lis pas, je pense qu'elle est assez lisible, tandis que la seconde, plus laconique, est sciemment ordonnée dans sa rythmique, comme en témoigne sa disposition plus centrée, va être préférée pour figurer dans le champ de la médaille. Toutefois, Vernier saisit la liberté de réorganiser sa structure, la rejetant dans la partie gauche de la médaille et en ne l'étalant pas de part et d'autre du monument, ce qui est souvent une convention au sein de la médaille. Il multiplie de fait les retours à la ligne en augmentant simplement le nom de Gambetta, dans la typographie qui apparaît sur cette médaille. Et cet ordonnancement permet également à Vernier d'ajouter les noms des architectes et du sculpteur directement dans le champ de la médaille, à droite, célébrant ainsi la paternité du monument, tandis que sa signature occupe l'exergue, je ne sais pas si elle n'est peut-être pas très très visible, mais l'exergue de la médaille. Le caractère parlant de cette médaille répond en quelque sorte au monument que la critique d'époque a souvent taxé d'emphatique et de bavard. L'architecte Boileau a en effet cherché à recouvrir les quatre faces du pylône des passages les plus éloquents des discours de Gambetta afin de mettre en évidence son talent d'orateur. À la mi-mai 1888, la médaille est enfin achevée et il faut encore un mois pour constituer les instruments de frappe qui sont livrés à la Monnaie de Paris 20 jours avant la célébration. Et il manque malheureusement en dossier d'archives la liste des destinataires de la médaille pour que l'on puisse estimer à combien d'exemplaires elle a été frappée et précisément qui sont les personnalités qui se sont vues honorées par son attribution. Toujours est-il que cette médaille se pose aujourd'hui comme un témoin de l'existence d'un monument ayant disparu de l'espace public, puisque ses bronzes ont été récupérés sous l'occupation, et qu'en 1954, les éléments lapidaires restants ont fini par être retirés de l'esplanade du carrousel. Il ne subsiste que le groupe central qui a été installé en 1982 à Paris, Square Vaillant, à l'occasion du centenaire de la mort de Gambetta. Toutefois, le caractère patriotique et civique du monument, créé par Boileau et Aubé, n'est jamais parvenu à se transférer dans la médaille de Vernier. L'objet, bien que de qualité, sans que l'on puisse lui reconnaître une grande inventivité, Vernier ayant préféré être très consciencieux dans sa réponse à la commande publique, est resté cantonné à l'occasion pour laquelle il a été produit. Il n'a malheureusement pas réussi à marquer l'art de la médaille, comme cela a été le cas du troisième exemple que je souhaiterais évoquer. La médaille à la mémoire des élèves de l'École des Beaux-Arts morts pour la défense de la patrie est en effet un jalon si important de l'histoire de l'art médaillistique qu'on peine souvent à se souvenir du contexte qui environne l'origine de sa réalisation. La mort tragique du peintre Henri Regnault, sur le champ de bataille à Buzenval en janvier 1871 a profondément attristé toute une génération d'artistes. Quelques mois après la fin des troubles politiques, une première initiative de ses amis ouvre une souscription pour l'élévation d'un monument à sa mémoire, à laquelle s'ajoute une subvention de l'État pour un hommage plus large à tous les élèves de l'École des Beaux-Arts morts durant la guerre de 1870-1871. Le projet associe trois jeunes artistes, amis d'Henri Regnault et pensionnaires en même temps que lui à la Villa Médicis, pour confectionner l'architecture, la statue allégorique et le buste du peintre dans la cour du mûrier de l'École des Beaux-Arts de Paris. Le petit temple ionique en marbre blanc, rehaussé d'étoiles d'or, imaginé par Jean-Louis Pascal, se compose d'une figure allégorique de la jeunesse qu'Henri Chaput va mettre 5 ans à élaborer et qui se hausse sur la pointe des pieds dans un mouvement très gracieux pour tendre un rameau d'or au buste d'Henri Regnault conçu par Charles de Georges qui se détache sur un fond de mosaïque. Davantage connu comme médailleur, Charles de Georges est néanmoins estimé comme sculpteur. On retient d'ailleurs de lui la figure de la jeunesse d'Aristote qui, présentée au salon de 1875, va lui valoir une médaille de première classe. Mais dès décembre 1872, de Georges reçoit la commande du buste de son ami peintre pour la somme de 2000 francs. Achevé et fondu en bronze en 1876, il est exposé au salon où la critique ne peut s'empêcher de le comparer à la figure de Chaput qui, l'année précédente, en 1875, avait tant rencontré le succès. Le buste de Georges est quant à lui jugé trop renfrogné, un caractère s'apparentant à la fougue du soldat, alors que c'est davantage à l'artiste que l'on souhaite célébrer. Le buste est malgré tout installé sur le monument de l'École des Beaux-Arts. L'inauguration a lieu en grande pompe le 12 août 1876, réunissant toute l'élite du monde artistique. Vivement impressionné par l'éloge que suscite le monument, de Georges va prendre la plume quelques semaines après les festivités pour présenter à l'administration des Beaux-Arts un projet de médaille commémorative du monument. Il explique dans une lettre en date du 9 septembre 1876, je cite un passage, qu'en faisant exécuter cette médaille, ce serait à la fois suivre son usage qui, pratiqué dans l'Antiquité, nous a consacré l'image de beaucoup de monuments, aujourd'hui disparus, et ce serait surtout, pour les familles de ceux qui ont succombé, un faible dédommagement et un titre de dévouement à la patrie qui garderait précieusement et qu'ils transmettraient à leur descendance. Cette première sollicitation ne trouve toutefois pas l'effet escompté et de Georges doit réitérer sa demande en janvier 1877 en y joignant un projet dessiné. Et il ajoute dans une lettre encore qu'il a réalisé ce projet durant sa pension à l'Académie de France à Rome comme dernier envoi, mais qu'à la suite de la guerre, il n'avait pas pu le terminer et que désormais qu'elle est achevée, il sollicite donc son achat. Par arrêté en date du 26 février 1877, de Georges se retrouve finalement bénéficiaire d'une commande moyennant la somme assez conséquente de 6000 francs qu'il doit graver dans un module de 80 mm, un format très conséquent là encore pour l'époque et qui de fait place l'œuvre dans la catégorie des médailles commémoratives. Réalisé bien après la cérémonie d'inauguration du monument, c'est donc dans une toute autre fonction que cette médaille a été élaborée. En outre, après le début de la réalisation ordinaire où les premiers acomptes sont versés régulièrement, le processus de création se stoppe brutalement entre les années 1878 et 1888. De Georges connaît en effet quelques soucis de santé, en plus d'accumuler les commandes, et surtout il se retrouve en forte difficulté dans la réalisation technique de ses matrices. Ce n'est qu'en juillet 1888, soit après 12 ans après l'inauguration, que les outillages sont déposés à la Monnaie pour en ordonner les premières frappes destinées à être distribuées aux collaborateurs du monument. On sait d'ailleurs que la somme employée pour payer cette fabrication a été prise sur les reliquats de la souscription. Cette médaille trouve ainsi un nouveau sens en devenant une distinction pour les familles des élèves de l'École des Beaux-Arts morts durant le conflit. Et dans son revers, l'importante inscription, paraissant de part et d'autre du monument, réfère précisément à ces martyrs en déclinant 11 noms qui, dans le monument, se déploient sur les colonnes. La composition s'avère tout aussi bavarde que la médaille du monument à Gambetta de Vernier, sauf qu'ainsi disposée et dans une graphie très fine qui se détache très subtilement du fond, elle apparaît moins dense. Cette nouvelle destination permet encore à de Georges de se réapproprier complètement son œuvre en lui fournissant une nouvelle symbolique. Et plus que simplement reprendre le monument dans son revers, le génie de Georges a été de proposer un complément iconographique tendant à l'investissement d'une nouvelle composition allégorique figurant dans le droit de sa médaille, dont l'intelligence est venue rivaliser avec les références monumentales. Debout sur la première marche d'un escalier conduisant à l'hôtel de la patrie, une femme drapée, tenant une palme et une couronne de laurier, se tient devant le corps gisant d'un martyr, une arme brisée dans la main droite, et serrant contre lui le drapeau français. Cette composition et surtout cette puissante figure de Marianne s'avère tout aussi inventive que la figure juvénile de la jeunesse élaborée par Henri Chaput. À ce titre, le talent de Charles de Georges et de Chaput se rejoignent dans la démonstration qui est ici faite de leur habileté à traiter le drapé. Talent qui fait dire au critique d'art Charles Saunier que cette médaille était remarquable par son ampleur sculpturale. La permanence de l'iconographie chrétienne dans sa référence à la figure allongée, la noblesse de la composition, la pureté de l'émotion et l'harmonie des lignes ont également encouragé Jean Bablon, que je paraphrase ici, éminent numismate, à accorder à cette médaille, qu'il qualifie de classicisante, une large place dans son recueil sur la médaille en France. Et véritable chef-d'œuvre de Charles de Georges, cette médaille a été produite à un très grand nombre d'exemplaires. Le directeur de la Monnaie confirme d'ailleurs en 1898 qu'elle est souvent demandée par les collectionneurs, alors même que le coin du droit vient de se briser sous le balancier d'une usure naturelle et qu'il demande que l'instrument soit remplacé sans retard. Il propose d'ailleurs de classer la médaille dans la collection patrimoniale de l'administration des Monnaies, signe qu'elle entre dans une nouvelle catégorie, celle des médailles historiques. Ma communication tendant à démontrer que la médaille a pu consacrer la statuaire publique montre aussi qu'au-delà des fêtes républicaines, des rassemblements citoyens qui célèbrent la statuaire, les inaugurations de monuments publics au XIXe siècle ont aussi servi à valoriser la médaille. Pour finir par évoquer la question de son usage, la médaille commémorative de monument sert de cadeau destiné aux contributeurs de l'œuvre, aux invités officiels et surtout aux souscripteurs. Est distribué dans un écrin de qualité, souvent dans des maroquins dont l'intérieur est gainé de velours cramoisi. Ce dispositif de présentation ne laisse la médaille s'offrir qu'au regard du seul destinataire. Cette attribution privilégiée se double également d'une dimension symbolique en conférant à l'objet une charge affective. L'objet se gorge en effet du souvenir du moment qui se remémore dès lors que la médaille est manipulée par son propriétaire. La médaille commémorative de monument sert également à véhiculer le message contenu dans la statuaire publique, mais qui, par sa nature immobile, ne peut se diffuser. Le message ne s'offre qu'à l'œil du citoyen allant à sa rencontre, tandis que la médaille, par son format et par son caractère multiple, peut aisément circuler et se diffuser, tout comme la carte postale, sauf que la nature métallique lui offre en plus la pérennité à travers les âges. La médaille participe enfin d'une ferveur allant à la profusion de l'hommage. En effet, alors même que sur le socle des monuments, on trouve des plaques rappelant les conditions de la commémoration, alors que les cérémonies des dévoilements et les nombreux discours faits le grand homme consacré par la statuaire, la médaille arrive comme un objet additionnel au rituel commémoratif. Et à mon sens, elle se place à un troisième niveau d'hommage qui, dans certaines conditions, peuvent tout aussi bien desservir le discours. Cependant, ces médailles trouvent bien leur utilité dans leur fonction de trace et de témoignage de l'événement éphémère que représentent les nombreuses cérémonies qui ont ponctué le cours du XIXe siècle, et plus particulièrement encore le cours de la Troisième République. Et en conclusion, en suivant de cette manière le phénomène de statuomanie, ces objets d'art participent, à mon avis, pleinement à l'écriture de l'histoire de cette période et sont donc intéressantes à considérer dans l'étude de la statuaire publique. Je vous remercie.
Merci beaucoup et encore une fois d'avoir tenu le délai imparti parce que ça nous offre encore une dizaine de minutes de questions. Je vais inviter M. Grévy à nous rejoindre à nouveau.
Oui, je voudrais saisir d'abord le micro pour dire à Jérôme Grévy que la communication de Katia Schall, à mon avis, répond à l'interrogation méthodologique qui était la tienne lorsque tu te demandais comment l'histoire de l'art pouvait s'emparer de la statuaire. Je remercie Katia, je trouve la communication exemplaire à cet égard, dans la mesure où elle montre à la fois l'analyse formelle, l'analyse iconographique et la mise en contexte, travaillant sur les rebonds artistiques qui peuvent exister à partir de la création du monument. Et dire aussi que un autre aspect qui me semble très important, c'est l'étude des collaborations, c'est-à-dire l'étude de l'architecte, des relations entre l'architecte, la mise au concours, les travaux, le rapport du socle et le rapport du bas-relief avec, la ronde bosse sont aussi au cœur des préoccupations des méthodes qui, tout cela pour apporter, pour compléter ton tableau sur les différents apports croisés de l'histoire et de l'histoire de l'art.
Y a-t-il d'autres questions ? Oui.
J'ai toujours ramené tout à la Première Guerre mondiale, mais les deux communications ont été formidables pour comprendre la rupture, justement. Et quand vous parlez du Caire de Gambetta, il faut penser qu'il a été mis au Panthéon le même jour où le soldat inconnu a été mis, lui, sous l'Arc de Triomphe. Et en fait, le soldat inconnu devait être mis au Panthéon. Mais il y a eu un opprobre extraordinaire, et ça rejoint la question à laquelle a répondu Claire tout à l'heure, du peuple français, par sa députation, qui ne pouvait pas supporter que le soldat qui représentait tout le monde soit avec les grands hommes. Donc on a choisi le grand homme qui représentait la résistance, comme vous l'avez bien montré tous les deux, et la République, pour le mettre au Panthéon, mais on n'avait plus que son cœur, donc on a mis son cœur, et puis le reste... Le soldat inconnu était sous l'Arc de Triomphe, volé au triomphateur pour le donner de nouveau à ceux qui sont tous les conscrits. Et donc là, on a vraiment un travail à la fois artistique, politique, et aussi, je dirais, sur la nouvelle histoire que l'on fait aujourd'hui, celle du corps, et du corps démantelé pour... en privilégier un organe, le cœur, dont on sait bien aujourd'hui qu'il n'est pas vraiment le cœur.
Autre question ? Tout le monde a faim. C'est un classique. Non ? On va conclure alors. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve à 14h30. 14h30 précise, me dit Madame Barbillon, pour une séance qui sera présidée par Claire Barbillon. À tout à l'heure.